Il est 7h.
L'ARS a décidé de fermer 2 jours, pas parce qu'on n'a pas l'organisation, mais parce qu'on n'a pas les vaccins qui vont avec.
La pénurie de doses, c'est bien le problème, notamment dans le Bas-Rhin où il faut fermer les centres de vaccination pendant 2 jours la semaine prochaine. Dossier dès le début de ce journal, on va vous expliquer pourquoi. Retour à la fac au moins un jour par semaine, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron face à la détresse des étudiants. Mais ça va être compliqué en termes d'organisation. Avec la crise actuelle, les grandes entreprises remettent au goût du jour les pré-retraites. Ça permet de réduire les effectifs en douceur. Dans ce journal, ne manquez pas une plongée totalement inédite au cœur de la centrale nucléaire de Paluel. Notre envoyée spéciale Élise Dangean a pu assister pour la première fois à une simulation d'accident. Et puis cet air, vous le connaissez évidemment. La reine de la nuit, ce soir vous êtes invitée à l'Opéra de Paris, au programme La Flûte Enchantée, depuis votre canapé.
Et je vais laisser la dame terminer. Juste après ce journal, alerte sur la reprise française. C'est l'éclairage écho avec Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette. Des finales de Grand Chelem en 5-7, même pour les femmes. Proposition d'Amélie Mauresmo et c'est oui pour Virginie Fulpin. Du tennis dans l'édito sport avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait plusieurs semaines qu'on entend des critiques sur la lenteur de la vaccination. Alors hier soir, Olivier Véran, invité du 20h de TF1, a déroulé un calendrier très optimiste.
Ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales.
Le ministre de la Santé ne parle pas en revanche d'un autre bémol, et pas des moindres, hein, celui du nombre de doses qui sont livrées à la France.
Oui, le laboratoire Pfizer va en effet réduire le nombre de flacons. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Alors, vous allez nous expliquer ça, cette réduction, elle est liée à une recommandation de l'Agence européenne des médicaments.
Oui, comme les flacons de 5 doses livrés par Pfizer contiennent en fait de quoi en injecter 6, l'Agence européenne des médicaments a recommandé il y a 2 semaines de ne pas gâcher et donc d'utiliser cette 6e dose. Les autorités sanitaires ont alors pensé qu'elles avaient gagné de nouveaux vaccins. Sauf que Pfizer s'est engouffré dans la brèche et a décidé de diminuer le nombre de flacons livrés. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque la France commandait 1000 doses, elle recevait 200 flacons. À partir de la semaine prochaine, ce sera 166 flacons qui seront envoyés. Ce qui pose un problème considérable car il n'y a plus de pertes possibles. Il y a 15 jours, cette 6e dose était un bonus pour vacciner potentiellement une personne de plus. Avec cette décision de Pfizer, ce bonus s'est transformé en une grosse contrainte.
Merci Victor Dolande. Et cette contrainte, elle a des conséquences très concrètes dans les centres de vaccination, dans le Bas-Rhin par exemple, où le manque de doses se fait déjà sentir.
Vous êtes à Strasbourg, Arthur Mbaché. Tous les rendez-vous fixés lundi et mardi de la semaine prochaine ont été annulés.
Et résultat, au standard téléphonique, les opérateurs rappellent les gens de plus de 75 ans.
Oui, bonjour, c'est le centre de vaccination de Strasbourg au téléphone.
Oui, je vous écoute.
Je vous appelle pour changer votre rendez-vous.
Oui, d'accord.
Donc j'aurai de la place le lundi 1er février à 14h45.
14h45.
Voilà.
Normalement, c'était prévu pour le 26, donc là, c'est 5 jours après, donc c'est pas dramatique. Hein.
Il y a quelques personnes qui sont pas très contentes, mais sinon, c'est vrai que les gens sont adorables et très compréhensifs.
Alexandre Feltz est l'adjoint au maire en charge de la santé.
Lundi et mardi, on avait plus de 600 personnes qui étaient inscrites et on a quasi trouvé pour tout le monde des rendez-vous dans la semaine suivante ou 10 jours plus tard. Alors c'est une décision départementale. Certains départements sans doute ont arrêté des lignes, arrêté des heures et l'ARS a décidé, elle, de fermer 2 jours, pas parce qu'on n'a pas l'organisation, mais parce qu'on n'a pas les vaccins qui vont avec.
Tout ça, dit-il, à cause du retard du vaccin Pfizer. À ceux qui appellent pour la première fois, les opérateurs répondent « pas de prise de rendez-vous pour l'instant, liste d'attente ».
Arthur Mbaché, vous êtes à Strasbourg pour Europe 1. Hier soir, Olivier Véran a parlé de course contre la montre pour freiner la diffusion du variant anglais. Le ministre de la Santé n'exclut pas un reconfinement si la situation devait empirer, mais pour l'instant, il veut donner sa chance au couvre-feu à 18h.
Un éventuel reconfinement fait particulièrement peur aux étudiants, déjà très éprouvés par la situation actuelle, on en a beaucoup parlé. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il pourrait revenir à l'université au moins un jour par semaine.
Bon. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste éducation. Vous nous dites que ce ne sera pas si simple à mettre en œuvre.
Effectivement, car le président a également fixé une jauge limite à ce retour en présentiel de tous, licence comme master une fois par semaine. Il ne faut pas dépasser 20% de la capacité d'accueil des facs. Problème, cette annonce, elle s'ajoute à une autre mesure qui entre en application lundi, à savoir le retour de toutes les premières années en présentiel en TD à 50%. En gros, ça va être un véritable casse-tête pour les présidents d'université pour tenir ces deux exigences ensemble, organiser les emplois du temps. Et en plus, du côté des étudiants, c'est la décision. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF.
Un jour en présentiel par semaine, c'est loin de suffire. Nous, ce qu'on demandait, c'était une alternance, une semaine présentielle, une semaine distancielle, pour avoir un vrai encadrement pédagogique. Si vous pouvez aller en cours qu'un seul jour par semaine, ça ne va pas permettre de raccrocher les wagons pour tous les étudiants qui sont en train de décrocher massivement.
L'idée, c'est de se laisser 15 jours ensuite, le temps d'évaluer l'impact de ce retour au compte-gouttes, en lien avec l'évolution de la situation sanitaire, mais à ce stade, l'horizon d'un retour progressif pour tous n'est même plus vraiment envisagé. Nous sommes dans une période bourrée d'incertitudes, a dit hier le président Emmanuel Macron. Et pour les étudiants, ça n'est pas prêt de s'arranger.
Virginie Riva. Et pour les élèves de terminale, eh bien, ils sont maintenant fixés sur leurs épreuves de spécialité pour le bac, des épreuves prévues en mars qui sont finalement annulé et remplacé par le contrôle continu. On va y revenir dans le journal de 8 heures.
À partir de dimanche minuit, il faudra un test PCR négatif pour tous ceux qui veulent entrer en France depuis un autre pays européen.
Et oui, l'Élysée l'a annoncé hier soir à l'issue du sommet européen consacré à l'épidémie. L'Union est inquiète face aux nouveaux variants. Elle veut limiter au maximum les déplacements entre les différents pays. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
En raison de la situation très critique, tous les voyages non essentiels doivent être fortement découragés dans les États membres et bien sûr entre les frontières. Mais dans le même temps, il est absolument important que le marché unique fonctionne. Donc les travailleurs essentiels et les biens doivent pouvoir traverser les frontières sans problème. C'est de la plus haute importance.
La présidente de la Commission européenne au micro Europe 1 d'Isabelle Horry. Et je vous le rappelle, Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15.
Et ajoutons qu'en Outre-mer, la Guyane va être confinée le dimanche pour faire face à l'épidémie et précisément au variant brésilien.
7h08 sur Europe 1. Dans ce contexte de crise économique, c'est le grand retour des pré-retraites. Plusieurs grandes entreprises ont récemment signé des accords.
Et oui, PSA, Renault, Bosch, Michelin, Aéroports de Paris, Airbus ou Safran, la liste est longue, Olivier Samin. On pensait que les pré-retraites, c'était du passé, mais c'est au contraire un dispositif qui a la cote.
Oui, et il s'agit de projets assumés par les directions d'entreprise. C'est ça qui est nouveau. Ces dernières années, on voyait des départs de salariés seniors, mais ça prenait la forme de transactions individuelles, discrètement négociées, et les personnes concernées étaient prises en charge par l'assurance chômage jusqu'à leur départ en retraite. Une pratique dénoncée au passage par la Cour des comptes. Là, on a affaire à des plans en bonne et due forme qui, parfois, concernent des populations importantes. Chez Safran, par exemple, le plan négocié l'été dernier prévoit 3000 départs. Pour les entreprises, ça a un coût. Il faut continuer à rémunérer les salariés jusqu'à la retraite à hauteur de 70 à 80% de leur ancien salaire. Mais ça présente aussi un intérêt, celui de pouvoir procéder à des réductions d'effectifs de manière apaisée. Voilà pourquoi, quand elles le peuvent, les grandes entreprises n'hésitent pas, quitte à envoyer un signal en totale contradiction avec le discours tenu depuis plus de 10 ans par les gouvernements, aussi bien de gauche que de droite, sur la nécessité de maintenir le plus longtemps possible les seniors dans l'emploi. Contradiction aussi avec le report de l'âge de départ à la retraite, si tant est que le gouvernement veuille toujours mener sa réforme.
Olivier Samin, on en parlait avec Laurent Cabrol. Attention, la tempête Hortense arrive sur le sud-ouest de la France. Deux départements sont actuellement en vigilance orange, vent violent, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
On va maintenant vous faire vivre une expérience totalement inédite dans ce journal. Un exercice de sécurité grandeur nature dans une centrale nucléaire. C'est la toute première fois que des journalistes sont autorisés à y assister. Ça se passe à Paluel, en Seine-Maritime. On y simule une série de problèmes pour les gérer. Les 300 membres de la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire, passent à l'action. Et c'est Élise Dangean qui nous le raconte.
PC FARN, PC FARN de FARN D. Pendant plusieurs jours, des exercices simultanés sont réalisés sur le site de Paluel, en salle de commande où le réacteur est piloté grâce à un simulateur, et sur le terrain avec les équipiers de la Farne, reconnaissables grâce à leur casque rouge. Le scénario du jour est corsé. Tempête, risque vague submersion, perte du réseau électrique et évidemment pandémie. À cela s'ajoutent les aléas techniques sur le réacteur. Bref, la totale.
Le scénario d'aujourd'hui, il a une chance sur 1 million de se produire.
Mais c'est indispensable pour tester au mieux les équipes, dit Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale.
Le principe de la gestion de crise est assez simple. Il faut qu'on assure tout le temps le refroidissement du réacteur et qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère des produits radioactifs. Et donc pour faire ça, il nous faut tout le temps de l'eau et de l'électricité.
Alors les uns se chargent de récupérer l'eau du bassin, les autres acheminent des kilomètres de tuyaux jusqu'au réacteur, pendant que l'hélicoptère apporte du matériel. Une organisation quasi militaire, et pour cause, les femmes et les hommes de la Farne ont reçu une formation inspirée de l'armée et de la protection civile. Résultat garanti.
Oui, la mission a réussi.
Prochaine mission dans quelques mois. En tout, la Farne réalise 5 à 6 exercices de ce genre chaque année.
C'est donc une immersion exclusive à la centrale nucléaire que vient de nous faire vivre Élise Dangean. On l'a appris ce matin, Rémi Julienne, l'as des as de la cascade, est décédé des suites du Covid. Il avait 90 ans. On lui devait notamment les scènes spectaculaires de 6 James Bond. C'était aussi un ami de toujours de Jean-Paul Belmondo. On va maintenant vous emmener sur un tout autre site qui a sa part de mystère, lui aussi, c'est l'Opéra de Paris. Vous allez pouvoir assister...
C'est vrai qu'en ce moment, je me permets, c'est autant fermé qu'une centrale nucléaire.
Ah oui, exactement. Et l'occasion se présente ce soir d'assister à la Flûte enchantée de Mozart, comme si vous étiez dans la salle. Ça se passe en direct sur Internet. Diane Chénouda.
La Flûte enchantée, c'est d'abord cette musique aérienne de Mozart, avec le fameux air de la Reine de la Nuit, interprété par la célèbre soprano Sabine de Vielle. Heureuse de chanter ce soir en direct, même devant une salle vide.
C'est un grand exercice parce que finalement, on se charge, nous, énormément de l'énergie de la salle et on a besoin des bonnes ondes du public. Donc, on compte sur les spectateurs à travers leurs écrans pour nous soutenir à distance.
La Flûte enchantée, un merveilleux conte initiatique, une méditation sur la vie, l'amour, la mort. La soprano mesure la chance qu'elle a de pouvoir se produire sur une scène en ce moment.
On se sent privilégié de pouvoir jouer tout simplement parce qu'on pense à tous nos collègues qui sont privés de pouvoir faire leur métier, parfois qui sont privés de pouvoir manger à la fin du mois. Voilà, nous on a énormément de chance et on va porter haut le flambeau de la culture.
Et cela peut permettre à ceux qui ne seraient pas forcément venus à l'opéra de découvrir cette merveille.
La Flûte enchantée, c'est donc ce soir sur le site de l'Opéra de Paris à 19h30 et ça coûte 11,90€.
C'est génial. Franchement, c'est génial. On est privé de ces spectacles absolument somptueux. L'impression de pouvoir être à l'Opéra. Je suis en train de préparer ma soirée. Là.
Je vois ça.
On en parlait avec Nicolas Barret, qui est un grand amateur de musique aussi. Nicolas, bonjour. Et la Flûte enchantée. Ou alors, j'ai une autre ambiance à vous proposer, Hélène Zellani. C'est à Wuhan. Ah, c'est pour le contraste, hein. Nous on va regarder l'opéra sur le canapé et à Wuhan c'est des boîtes de nuit, cigarettes, la musique qui est repartie comme avant. Ça fait un petit peu rêver. 7h14, c'est une autre musique cela dit. Nicolas Barret est un peu moins sensible j'ai l'impression. 7h14 sur Europe 1, très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Encore de la musique. Vous reconnaissez la voix et ces chansons que vous aimez, cette voix surtout qui a accompagné beaucoup de Français pendant le confinement sur le net. Jean-Louis Aubert qui réédite son album Refuge, qui sort un nouveau single aujourd'hui, qui ne s'arrête pas quoi. La musique, les concerts vous manquent, à lui aussi vous allez l'entendre. Rencontre avec un chanteur qui trépigne et qui a hâte de vous retrouver sur scène. Jean-Louis Aubert, invité du Tête-à-Tête Europe Matin tout à l'heure à 7h40. Tout de suite, l'éclairage écho, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h17 sur Europe 1, l'éclairage écho avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Rebonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
On va moins parler de musique, un peu plus de chiffres avec les perspectives de reprise qui s'assombrissent. Bercy envisage même dans le pire des cas, un scénario sans reprise d'ici à la fin de l'année.
Oui, le manque de visibilité sur le plan sanitaire est tout simplement dévastateur, d'où des scénarios économiques qui font vraiment le grand écart. L'objectif de croissance de notre économie cette année, eh bien, il est de 6%, mais on est seulement à la mi-janvier et il paraît déjà difficile à atteindre. Bercy ne s'en cache pas, c'est un scénario qui avait été élaboré sous l'hypothèse qu'il n'y ait pas de reconfinement. Or aujourd'hui, du fait de la prolifération de variants du virus, on ne peut l'exclure, Olivier Véran l'a rappelé hier.
Oui, or le confinement est synonyme de plongeon économique, alors, ça on le sait maintenant.
Exactement, oui, ça c'est clair. L'économie française chute d'ailleurs plus qu'ailleurs quand il y a confinement et elle rebondit plus haut que les autres quand on revient à la normale. On en a eu la preuve l'été dernier. Le problème, c'est que le retour à la normale donc s'éloigne et c'est ce qui fait dérailler donc les scénarios de reprise. Bercy envisage même désormais le pire, un scénario sans reprise pour l'économie française d'ici la fin de l'année. En cas de reconfinement, l'économie et de nouvelles dégradations de la situation sanitaire en Europe dans la deuxième moitié de l'année, ça n'est certes pas le scénario le plus probable, mais c'est possible. Je le rappelle, un mois de confinement, c'est quand même un point de croissance annuelle en moins pour notre économie. Ça va donc très vite.
Y a-t-il quand même, Nicolas, des raisons d'être un petit peu plus optimiste ?
Alors oui, et je préfère terminer par là. D'abord parce que selon nos informations, la France devrait avoir de quoi vacciner 45 millions de personnes d'ici le mois de juin. Si les feux verts attendus des autorités de santé pour les nouveaux vaccins qui arrivent sont donnés en temps voulu, ça veut dire qu'on atteindrait l'objectif de 70% de vaccinés d'ici la fin du semestre. Et ça change tout sur le plan économique. Ce serait un vrai retour à la normale. Deuxième raison d'être un peu plus optimiste, les Français ont accumulé, vous le savez, plus de 100 milliards d'euros d'épargne, l'équivalent d'un plan de relance. On peut alors espérer un boom de la consommation à partir de l'été. Or, la consommation, c'est le principal moteur de notre économie. En clair, si nous atteignons cette fameuse immunité collective, le redémarrage de l'activité peut être extrêmement rapide car les ressources sont là et grâce aux aides publiques massives, le tissu économique a été tant bien que mal préservé. Le pari de la reprise n'est pas perdu.
Prenons ce pari. Je note que nous, ce matin, on répète qu'à la fin du mois d'août, 70 millions de doses de vaccins auront été disponibles, tous les Français en gros. Vous, la nuance, elle est importante, 45 millions immunité collective au mois de juin.
À la fin du semestre.
Autant avoir l'été quand même avec cette immunité si c'est possible. Merci Nicolas Barré. 7h19 sur Europe 1, le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Mais bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
L'une des premières mesures de Joe Biden, c'est le retour des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, Joe Biden démontre ainsi qu'il tient au dialogue multilatéral. C'est le monde qu'il connaît et auquel il croit. Et puis il se fait très plaisir en faisant le contraire de son prédécesseur. Biden répare, Biden remplace et Biden réconcilie. Le président a choisi une vedette comme conseiller à la sécurité, à la santé, le docteur Fauci. Ce spécialiste en immunologie est connu des Américains parce qu'il faisait tous les soirs à la télé le point sur la situation. Et il est même célèbre car il se permettait de reprendre Donald Trump qu'il n'a pas supporté longtemps.
Alors hier, Anthony Fauci s'est adressé au conseil exécutif de l'OMS.
Alors il aurait pu dire les États-Unis sont de retour. Il aurait même pu se taire et brandir le carnet de chèques car c'est le plus gros contributeur au budget de l'agence, 1 milliard de dollars par an. Non, il faut plus que ça au docteur Fauci. Il a dit bravo et merci. Il a remercié l'OMS pour son rôle de chef de file dans la réponse de santé publique mondiale à cette pandémie. En voilà un qui n'est pas rancunier.
Oui, ça veut dire que les accusations contre l'Organisation mondiale de la santé
sûrement
sont oubliées.
Sûrement pas, tout au contraire. Il y a un an, l'OMS n'avait pas encore sonné le tocsin. Le 30 janvier, enfin, elle a réuni son comité d'urgence. Elle a rechigné à décréter l'état d'urgence sanitaire international. Elle a tardé à recommander le port du masque ou la fermeture des frontières. Bref, la vigie était sourde, muette, aveugle. Pourquoi ? Donald Trump l'a accusé de couvrir la Chine qui a menti et caché pendant 2 mois le problème du Wuhan. Sous pression, l'OMS a fini par désigner un groupe d'experts indépendants qui a rendu son rapport avant-hier, 1 an et 2 millions de morts plus tard. Il donne raison à ceux qui critiquaient l'aveuglement de l'OMS. L'OMS a fait pire que nos ARS. Oui, c'est possible.
Alors tout le monde applaudit le retour des Américains.
Quel soulagement. Trump avait raison sur l'influence chinoise et tort de leur abandonner la place. Le monde compte sur les Américains et Joe Biden revenu à bord pour contrer Pékin qui cherche à remodeler toutes les instances multilatérales.
Merci Vincent Hervouette. Il est 7h21 sur Europe 1. Tout de suite, la semaine du sport féminin dans les médias. Et Amélie Mauresmo qui propose du spectacle, des finales de Grand Chelem en 5-7 pour les femmes. L'édito sport de Virginie Fulpin dans un instant, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour
et
à tous.
Et si les femmes jouaient aussi au tennis au meilleur des 5-7 ? Amélie Mauresmo est favorable à cette évolution dans les finales des tournois du Grand Chelem. Elle l'a dit lors d'un entretien avec Arnaud Di Pasquale cette semaine. Et pour vous, Virginie, c'est un grand oui.
Il y a deux boussoles au tennis. Novak Djokovic indique systématiquement le sud et Amélie Mauresmo nous montre le chemin vers le nord. Ce qui est un peu plus le rôle d'une boussole, avouons-le. Vous vous souvenez du numéro 1 mondial qui voulait que les tournois du Grand Chelem se jouent en 2-7 gagnants pour les hommes?
Oui, vous en aviez parlé.
Exactement, oui, j'étais pas tout à fait d'accord. Là, Amélie Mauresmo prend l'exact contre-pied en se disant favorable à ce que les femmes jouent en 3-7 gagnants les finales de ces grands chelems. En fait, il y en a un qui pense marketing et retransmission télé, et l'autre qui réfléchit au jeu et à l'évolution du circuit féminin. Je ne vais pas vous cacher que je suis plus attentive aux paroles de la française. Elle dit qu'on voit trop souvent des finales à sens unique, ce qui manque d'intérêt. Là, j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'effectivement, à Wimbledon, par exemple, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu une finale dames accrochée en 3-7. Alors, vous allez peut-être me dire que ça ne changerait rien, qu'on verrait juste un set de plus dans un match à sens unique, mais non, parce qu'un match en 3-7 gagnant, on ne peut pas l'aborder de la même manière. Vous pouvez tout maîtriser pendant une heure, gagner vos 2-7 et c'est fini. En gagner 3, ça demande de gérer son effort. Plus personne n'est à l'abri d'une fringale, d'un revers qui se grippe ou d'un adversaire qui arrive à sortir la tête de l'eau. Et tout peut se renverser. C'est le genre de bataille que j'ai envie de voir sur un court de tennis chez les femmes aussi.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Virginie, mais est-ce que c'est possible, physiquement, je veux dire, pour les femmes?
Elles l'ont déjà fait. Entre 1984 et 1998, la finale du Masters, le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses du monde, se jouait bien au meilleur des 5 manches. En 1990, Monica Seles a battu Gabriela Sabatini en 5-7. Ça a duré 3h47. Un match qui reste mythique. Et si on veut que les femmes puissent avoir ce genre de match de légende, je suis d'accord avec Amélie Mauresmo, essayons de jouer en 5-7. En plus, elle ne parle que des finales des grands chelems, donc on a sur le court les meilleurs du monde. Elles peuvent tenir, ce sont des sportifs de très haut niveau. Et puis ça peut faire évoluer leur jeu, les pousser à travailler davantage leur endurance, que ce soit physique ou mentale. C'est là qu'on va voir des rencontres époustouflantes de celles qui peuvent scotcher le public. Enfin, au-delà du tennis, du jeu en lui-même, ça éviterait les sempiternelles remarques sur l'égalité salariale dans ces tournois du Grand Chelem. Mais pourquoi elles gagnent autant alors qu'elles jouent 2-7?
Non. Il y a vraiment ça comme argument?
Mais bien sûr.
Incroyable.
Argument avec beaucoup de guillemets. Moi, ça me ferait des vacances. Ouais.
Écoutez, c'est noté l'édito sport de Virginie Fulpin et les boussoles, celles qu'indiquent le sud, le nord, Djokovic, Mauresmo. Et pourquoi pas des finales de Grand Chelem en 5-7 pour les femmes? C'était la semaine du sport féminin dans les médias, précisons-le aussi. Virginie Fulpin, merci beaucoup. 7h26 sur Europe 1. Nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je le sais, mea culpa. J'ai souvent tendance à me vautrer dans des circonvolutions à rallonge, à kiffer les apartés et autres digressions. Mais il m'arrive parfois, je vous prie de me croire, d'aller droit au but, de parler de but en blanc.
Ah oui, quand on parle de...
De but en blanc. D'où vient cette expression, Mathieu?
Alors, normalement, c'est pour dire qu'on parle sans détour, straight to the point, comme dirait Stéphane Bern, pour ceux qui détestent les anglicismes.
Oui, on les salue amicalement. La formule date du XVIIe siècle et l'expression emprunte à l'univers militaire, plus précisément à deux éléments d'un pas de tir. De but en blanc désigne deux choses. La butte, qui était le petit tas de terre sur lequel on reposait le canon du fusil pour lui assurer une bonne stabilité, et le blanc, qui représentait la cible. De but en blanc, c'était donc le trajet du canon à la cible, donc une trajectoire droite, sans détour, rapide, sans faux semblant. Avant, de but en blanc, on disait de pointe en blanc. La pointe étant, encore une fois, l'endroit d'où l'on visait, de là où on pointait avec son arme à feu. L'expression est restée d'ailleurs aux boules, puisqu'on continue de pointer.
Ah oui, c'est vrai.
Notez que de pointe en blanc existe toujours en italien, puisqu'on dit di punto y bianco. En espagnol, on dit sin rodeos, sans faire de détour ni de rodeo, alors qu'au Brésil, c'est de bate pronto, frapper le ballon autant qu'il touche le sol. Je ne vois pas trop le rapport, faudra m'expliquer. Mais si je vous le dis de but en blanc, j'ai de sérieuses lacunes en ballon.
À 16h, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit la femme préhistorique, le peintre Jean-Michel Basquiat et le chanteur grec Demis Roussos. Leur point commun, ils ont écrit sur les murs. Et pas que les noms de ceux qu'on aime.
À tout à l'heure, 16h. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Ah, c'est le gros temps, mon cher Mathieu, c'est le gros temps et nos amis doivent vraiment faire attention, surtout sur le Béarn, sur la Gironde et le Pays Basque. Nous avons des rafales de vent qui ne sont pas encore très très violentes, autour de 80 à 100, mais elles pourraient atteindre les 130-140 dans le courant de la matinée, car c'est une véritable tempête qui arrive et cette tempête va concerner cette partie de la France. Alors, des régions où le temps va s'améliorer, il va s'améliorer sur la région parisienne, il pleut ce matin mais il ne pleuvra plus, la Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire, mais aussi sur la Vendée, le Poitou-Charentes, où nous aurons dans ces contrées quelques rayons de soleil dans la journée. Et puis de la pluie, alors de la pluie quand elle arrive, elle ne vous lâche pas, sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, sur tout le Massif central, sur toute la région Rhône-Alpes, et puis sur le sud du Massif central, je veux dire sur les Cévennes. Mais attention, la Corse, mes amis, la Corse, des orages, des pluies également. Vraiment, rien n'est fait pour nous arranger aujourd'hui. Des températures qui sont en baisse, entre 9 et 12 degrés dans la journée, et il y a pas mal de petites gelées ce matin. Et demain et après-demain seront des journées extrêmement agitées également. On y revient si je peux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est 7h30.
Je n'ai pris aucun plaisir à contredire le président. Il n'avait pas vraiment l'impression que l'on pouvait s'exprimer sans faire face à des répercussions.
Le retour en grâce d'Anthony Fauci, l'immunologue américain bridé par Donald Trump, aura à nouveau le droit à la parole avec Joe Biden. La France s'aligne sur les autres pays européens. À partir de dimanche, il faudra un test PCR négatif pour rentrer chez nous. Dans ce journal, vous entendrez la réaction d'une étudiante lilloise, loin d'être satisfaite par les annonces d'Emmanuel Macron. Et puis alerte, job de rêve à la fin de ce journal, devenir le gardien d'une île déserte. Mais attention, les conditions sont légèrement spartiates.
Juste après ce journal, Bertrand Chamerois, La Touche Âme, c'est tous les jours sur Europe 1. Jean-Louis Aubert qui sort un nouveau single aujourd'hui, il a égayé le confinement sur les réseaux sociaux, il rend un hommage fort aux personnels hospitaliers, c'est à suivre dans le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou avec cette petite phrase du président, les Français, 66 millions de procureurs, juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La course contre le coronavirus, c'est la priorité numéro 1 du nouveau président des États-Unis, alors que la pandémie a fait plus de 400 000 morts dans le pays. Au lendemain de l'investiture de Joe Biden, l'immunologue Anthony Fauci, très populaire auprès des Américains, a fait son grand retour.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour la première fois depuis un moment, le célèbre médecin a participé à une conférence de presse à la Maison-Blanche.
Oui, c'est un docteur Fauci tout sourire et visiblement soulagé qui s'est adressé aux journalistes. En disgrâce auprès de Donald Trump, il n'était apparu qu'une seule fois dans cette salle de presse depuis le mois d'avril. Il est très clair qu'il y a des choses vraiment gênantes qui ont été dites parce qu'elles n'étaient pas fondées sur des faits scientifiques, explique-t-il. L'idée que vous pouvez venir ici, parler de ce que vous savez, de ce que dit la science, et savoir que c'est bon, laisser la science parler, c'est comme un sentiment de libération. Anthony Fauci s'est même permis un trait d'humour en comparant les équipes Trump et Biden. L'une des nouveautés dans cette administration est que si vous ne connaissez pas la réponse, ne devinez pas, dites simplement que vous ne savez pas. Un peu plus tôt, Joe Biden a présenté sa stratégie nationale de lutte contre le virus. C'est une entreprise de guerre, dit le président, et à ceux qui s'étonnent de cette expression, il leur rappelle 400 000 Américains sont morts, c'est plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Joe Biden a donc signé de nouveaux décrets, port du masque dans les transports, efforts supplémentaires sur les tests et les vaccins. L'objectif, 100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours du mandat. Mais pour financer tout ce programme, Joe Biden aura besoin du Congrès et d'un vote sur un plan de relance de 1900 milliards de dollars.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
En France, à partir de dimanche minuit, les voyageurs en provenance de l'Union européenne devront présenter un test PCR négatif pour entrer sur le territoire.
Annonce de l'Élysée à l'issue du sommet européen consacré à la pandémie de Covid hier soir. Face à la flambée de cas et aux nouveaux variants du virus, les Européens veulent limiter au maximum les déplacements entre les pays, Isabelle Horry.
Oui, sur ce point, Emmanuel Macron est vraiment au diapason de ses partenaires. Les tests PCR négatifs exigés à l'entrée dans un pays sont désormais la norme en Europe. Certains, comme la Belgique, imposent déjà en plus une quarantaine. La France, comme les autres pays européens, exclut de cette mesure les travailleurs frontaliers et le transport de marchandises afin que le marché unique et l'économie puissent continuer à fonctionner. À travers toute l'Europe, la progression des nouveaux variants de la maladie est une source d'inquiétude. C'est ce que souligne le président du Conseil européen, Charles Michel.
Ça a été l'occasion, cette réunion, pour l'ensemble des 27 leaders, de montrer à quel point nous sommes conscients quant au sérieux de la situation et au caractère indispensable des mesures restrictives qui doivent être maintenues, voire même dans certains cas peut-être adaptées ou renforcées.
De son côté, la Commission européenne déconseille désormais fortement tous les voyages touristiques entre pays européens, mais aussi à l'intérieur même des pays. Et le Premier ministre belge envisage carrément d'aller plus loin. Il veut, lui, tout simplement interdire les voyages non essentiels à l'étranger pour ses concitoyens.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Pour la première fois depuis sa disparition le 4 janvier dernier, l'étudiante sénégalaise en classe préparatoire à Paris a donné des signes de vie. Elle dit avoir pris une petite pause pour retrouver ses esprits et se dit désolée de l'émotion provoquée par son absence au Sénégal. Tout le pays s'était mobilisé depuis le début du mois pour la retrouver.
Emmanuel Macron a présenté hier les mesures de soutien aux étudiants en grande précarité, on l'a dit, à cause de la crise.
Deux repas par jour à 1 euro, des chèques psy et la possibilité d'assister aux cours un jour par semaine. Mais pas sûr que ces annonces soient suffisantes. Vous entendiez hier matin sur Europe 1 la détresse de Charlotte, étudiante à Lille, coincée dans son 9 mètres carrés. Et clairement, la jeune fille n'est pas rassurée.
On a l'impression que c'est un peu des miettes qu'on nous jette pour nous faire taire. Je comprends que les deux premiers mois, ça a été ingérable, mais ça commence à faire longtemps. Moi, je m'attendais à ce qu'on prenne des décisions et qu'on adapte effectivement les cours à cette situation. Engager plus de profs pour faire des plus petits groupes, pour pouvoir veiller à ce que chacun puisse suivre ses cours. Là, on a l'impression de patauger, en fait, encore. Et si on en étude, c'est quand même pour se bâtir un avenir. Or là, l'avenir le plus lointain qu'on peut voir, c'est si on aura TD la semaine prochaine ou la semaine d'après, quoi.
Des propos recueillis par Damien Mestre. Et pour les lycéens de terminale, il n'y aura pas d'épreuve de spécialité du bac en mars. Ce sont les notes du contrôle continu qui seront prises en compte à la place. Les suites de l'affaire Olivier Duhamel, deux semaines après la sortie du livre de Camille Kouchner, son frère jumeau, victime d'inceste pendant son adolescence, a été entendu par les enquêteurs. Il va porter plainte contre le politologue.
Qui n'a jamais rêvé de partir s'installer sur une île déserte, loin de tous les tracas du quotidien? Pour terminer ce journal, écoutez bien cette offre d'emploi.
Un poste à pourvoir, gardien de Great Blasket Island, une petite île irlandaise isolée, c'est-à-dire profiter de la nature, des grands espaces verts qui plus est, à l'abri du virus. Mais autant vous prévenir tout de suite, il faudra être prêt à faire quelques concessions. Pierre Herbulot.
De l'herbe verte et grasse balayée par les embruns, la mer à perte de vue et le silence. Un petit bout de paradis, raconte Billy O'Connor, le propriétaire des 5 chalets de l'île.
L'île elle-même est magnifique, splendide. On a un sentiment de liberté incroyable au milieu de tant de vie sauvage. Il y a plus de 2000 phoques, des lapins, des ânes et tellement d'oiseaux. Et puis il y a aussi les ruines d'un vieux village. C'est vraiment un lieu unique, extraordinaire.
Billy voudrait embaucher un couple ou deux amis pour entretenir les petites maisons en attendant un potentiel retour des touristes. Hein, comment? Corona quoi?
You completely forget about the virus.
On oublie complètement le virus sur l'île, dit-il. Ah oui, il y a peut-être encore un tout petit dernier détail à régler.
There's no electricity or there's no hot water.
Ni eau chaude, ni électricité, dépaysement et déconnexion garantie.
Ah bah voilà, bah si ça vous tente, vous avez encore jusqu'à ce soir.
C'est très joli,
pour candidater.
Hein. Je suis allé voir pendant le sujet Great Basket. Par contre, les 5 chalets qu'il y a sur l'île, pourquoi ils les ont mis côte à côte, tous les uns sur les autres?
Je ne sais pas.
Il y a de la place,
faudra y aller pour vérifier.
Bah, je vais m'occuper de ça, justement.
Et puis à l'approche des vacances de février, vous hésitez peut-être à réserver votre billet de train. Eh bien, le patron de la SNCF se veut rassurant. Même en cas de reconfinement, ils seront échangeables et remboursables jusqu'à 3 jours avant votre départ.
Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30. Il est 7h37 sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Sommet européen en visioconférence hier soir à partir de dimanche. On vous le disait, il faudra un test PCR négatif pour entrer en France. L'Union veut limiter au maximum les déplacements entre pays. Ce matin sur Europe 1, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais avant cela... En attendant de pouvoir reprendre les tournées, Jean-Louis Aubert ne chôme pas. Il dévoile un nouveau single aujourd'hui, on va l'écouter. Il revient aussi sur cette grosse frayeur, opération à cœur ouvert au cœur de l'été. Il nous donne sa vision ce matin du monde hospitalier, le tête-à-tête Europe Matin avec Jean-Louis Aubert dans quelques minutes. Avant cela, votre nouveau rendez-vous de la matinale, La Touche Âme, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous présente un objet révolutionnaire pour décrypter les politiques. Ça s'appelle la Polybox.
A tout de suite. Un peu circonspect, mais à tout de suite quand même.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39, l'atout Cham, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez, entre autres, de cinéma.
Oui, traditionnellement, le jour des sorties, c'est le mercredi, mais vu que ça n'existe plus, j'ai décrété que ce serait désormais le vendredi. Voici la bande-annonce du nouvel opus de cette franchise qui tire un peu trop sur la corde et qui s'appelle Oreo, la crise sanitaire. Après le confinement, après le couvre-feu, après le reconfinement et après le couvre-feu volume 2, découvrez le re-reconfinement. Le re-reconfinement, sorti très très prochainement. Enfin, pas sorti puisqu'on devrait rester à l'intérieur, mais enfin bon, vous m'avez compris. Oui, je sais. Vous vous dites que c'est peut-être l'opus de trop, mais après tout, on a bien eu droit au Bronzé 3, donc pourquoi pas le re-reconfinement.
Alors, excusez-moi, d'où est-ce que vous tenez cette info, Bertrand ?
Eh bien, Mathieu, c'est grâce à mon dernier achat coup de cœur, la Polybox. La Polybox est un petit boîtier révolutionnaire. Marre des euphémismes et de la langue de bois, postez la Polybox près de votre télé ou de votre radio et elle traduit en moins d'une seconde les propos des hommes politiques en vrai français. Polybox et tout devient limpide. Ne pas utiliser sur Patrick Balkany, risque d'implosion. J'ai donc testé ma Polybox pour traduire Emmanuel Macron qui discutait hier avec des étudiants de Paris-Saclay dans l'Essonne.
Les prochaines semaines, je vais être honnête avec vous, vont être assez dures.
Préparez les stocks de PQ et de pâtes, on va reconfiner.
Ouais, ça marche bien cette Polybox, allez une autre.
Je ne pourrai pas rouvrir tout de suite les bars.
La prochaine pression que vous boirez en terrasse sera en avril 2021 dans le meilleur des cas.
Ah oui, bah, au moins c'est clair, merci Polybox. Alors pour vous changer les idées, je vous conseille de regarder la nouvelle émission d'histoire de France 3 qui ressemble étrangement à un programme animé par Stéphane Bern, Coulisses d'époque, qui vous fait découvrir les scènes historiques. Cette semaine, vous découvrirez l'épopée d'Hervé Comptable mangeant une bavette frite le midi avec ses collègues de bureau dans un restaurant. Partage d'addition, serveur qui ne prend pas la carte en dessous de 35 euros. Découvrirez également les bars, ces lieux chaleureux dans lesquels femmes et hommes se réunissaient entre amis après 18 heures pour se vider la tête. Nous vous emmènerons aussi au théâtre, en concert et au cinéma, ces salles obscures qui projetaient des chefs-d'œuvre, mais également le Baltringue de Vincent Lagaffe. Le tout rythmé par les témoignages de nos historiens. Les gens remuaient leur corps moite en se collant à moins d'un mètre en écoutant de la musique pendant des heures. Généralement la nuit, ça s'appelait les discothèques, un lieu qu'affectionnait particulièrement Mathieu Béliard. Vous l'auriez vu se déhancher sur Cascada, c'était épatant. Il était surnommé la petite sauterelle du Macumba. Coulisses d'époque, lundi 21h sur France 3. Ah là là, dire qu'il y a encore quelques mois, on fantasmait le monde d'après, alors qu'aujourd'hui on rêve juste de revenir au monde d'avant.
Il s'appelle Bertrand Chameroy, retenez son nom et ce sera tous les matins sur Europe 1 désormais à 7h40. La tout Cham, merci Bertrand. Vous êtes combien dans votre tête ?
Trop nombreux.
Trop nombreux, mais il en faut en même temps pour pouvoir écrire pour le matin et pour Philippe Vandel. À 10h05, on vous retrouve tous les jours évidemment dans Culture Média avec Eva Rock, Philippe Vandel. Ne manquez pas Bertrand Chameroy, 7h42.
Europe Matin. Le 7-9.
De la musique ce matin sur Europe 1. Jean-Louis Aubert vous a tenu compagnie pendant le premier confinement. Cyber Troubadour, comme il se qualifiait sur les réseaux sociaux. Il a connu l'hôpital, urgence cardiaque et complications cet été. Il en parle aujourd'hui. Nouveau single extrait de la réédition de son album Refuge. Jean-Louis Aubert est sur Europe 1 ce matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Louis Aubert.
Bonjour.
Vous trouvez le charme.
La sortie aujourd'hui de ce nouveau single « Où me tourner » sur la réédition de l'album « Refuge » en attendant la reprise sur scène.
Ouais, festival en juillet et reprendre à l'automne.
Ouais.
C'était tellement triste. Au bout de 5 concerts, ça se passait très bien de voir les bus partir, les camions, on pleurait tous, c'était...
Toutes les tournées interrompues évidemment par la crise sanitaire et on sent chez vous l'envie de reprendre, surtout de voir le verre à moitié plein. On n'est qu'en janvier, mais voilà, vous y croyez pour la suite, vous y croyez pour l'automne.
Bah, moi, je vis ça. Et en général, jusqu'à présent, je ne me suis pas trop trompé dans mes prédictions. J'ai le professeur Rabout tous les jours au téléphone.
Tout va bien à ce niveau-là. On va revenir sur une grosse frayeur, un épisode délicat que vous venez de traverser. Mais d'abord, un petit peu de musique, on est là pour ça quand même. Sur la réédition de votre album Refuge, on trouve deux chansons écrites pendant le confinement, dont Sans sortir, sans sortir.
Il y a comme un virus plus petit qu'une puce. Depuis on se sent minus, tout petit, diplodocus, confiné, confirmé.
Vous avez été particulièrement actif pendant le premier confinement sur les réseaux sociaux, une reprise tous les jours, des concerts. Vous vous êtes qualifié vous-même de cyber-troubadour.
Comme on pouvait, c'est s'asseoir au coin de la cheminée chez les gens, dans leur cuisine, et chanter des petites chansons. Je suis tellement remercié dans les rues pour ça, mais j'ai envie de dire tellement merci parce que moi, ça m'a occupé, habité, et c'était comme si ma tournée continuait. Ça a créé un lien et surtout, ça a donné des petits repères au temps. J'aime bien l'histoire des troubadours pour plusieurs raisons, mais j'ai toujours, quand j'ai commencé la musique, rêvé que je faisais beaucoup d'autostop. Enfin, d'abord, j'étais fugueur adolescent et après, j'ai traversé un peu le monde entier en autostop. Et j'étais avec ma guitare et à chaque fois, parce que j'avais la guitare, les gens m'hébergeaient et j'étais au cœur d'une petite fête et ils me donnaient à manger, à coucher. Et je crois que j'ai fait de la musique pour que le monde me prenne dans ses bras, que le monde devienne ma maison. Et ça continuait dans ce cadre-là. Par internet, ça marchait aussi.
Mon amour, mon ami, va où ton cœur te dit.
Va où ton cœur te dit, c'est évidemment de circonstance. Jean-Louis Aubert, autre composition du confinement. Opération du cœur. Au mois de juin, grosse frayeur, disais-je, c'était parfaitement inattendu. On vous annonce une malformation, vous allez connaître opération, complication. Dans Paris Match, en décembre, vous disiez votre regard sur un univers que les Français surveillent en ce moment comme le lait sur le feu, l'hôpital. Après cette expérience, vous dites que vous aimez l'ambiance de l'hôpital.
J'en suis presque à aimer cette densité de la vie, même si je n'aime pas la souffrance et je n'aime pas voir les autres souffrir, mais par contre, on fait moins les marioles que dehors. Et ça ramène à des valeurs plus certaines. Tous ces gens qu'on applaudissait, ben moi, quand on les applaudissait, je pensais à ça, à ces caresses, cette manière de se regarder quelquefois, ces regards bienveillants qui vous font un bien fou. Puis quelquefois, des gens sont un peu énervés. Et tout est démultiplié. J'avais écrit une chanson dans l'album Rock Éclair qui s'appelait Marcel. Il y avait une dame en face de la chambre de mon père qui semblait avoir 110 ans. C'était un squelette vivant, mais à peine vivant. Elle n'ouvrait pas les yeux, elle était raide sur son lit. Et je lui disais toujours « Bonsoir Marcel ». Et un soir, sa main a bougé lentement. Elle m'a fait signe de m'approcher. Je me suis mis à genoux au pied de son lit. Et elle s'est tournée, elle a souri. Et elle a dit « Ça fait longtemps qu'un homme n'est pas rentré dans ma chambre ». Et dans ce sourire et dans ce moment, je l'ai vue à 18 ans. Elle a vu que je l'ai vue. Elle a vu que j'ai vu sa beauté qui était parti, enfin qui s'en allait doucement avec la chair qui partait et en fait elle était toujours la même et de prendre sa main dans ma main et puis d'ailleurs elle nous a quittés le lendemain.
Est-ce que vous avez traversé ce qu'on traverse collectivement finalement quand on vous entend, on se dit que ça appelle à l'humilité.
En tout cas ça met une petite claque au monde occidental qui croit toujours tout savoir. Là, on se retrouve un peu au Moyen-Âge avec nos culottes sur la bouche. Ça me rappelle le spectacle, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les coulisses d'un concert, des fois, les canapés sont défoncés, ça pue dans les toilettes et tout ça. Et sur scène, ça brille. Dans la rue, on est là, t'as vu mes chaussures, t'as vu mon... Je sais pas, t'as vu ma femme, t'as vu comme je suis fort, t'as vu comme... on a toujours quelque chose à montrer, quelque chose pour se mettre en valeur, et c'est souvent des valeurs assez fausses. Et à l'hôpital, ben, tout disparaît. Et ouais. On est tout nu.
Ouais. Oui, c'est une leçon de modestie.
Oui, une leçon de modestie. Puis j'ai vu tous ces gens qui ont bossé pendant la première vague du Covid et qui allaient à l'hôpital même... qui pouvait pas ne pas y aller. Voilà. qui pensaient que leur rôle c'était d'être là. Et donc, quelquefois, ils délaissaient leur famille, qui ne pouvaient même pas rentrer chez elles de peur d'avoir attrapé la maladie. Il y a pas mal de gens, vous savez, qui vous aimeriez être si vous aviez un accident d'avion. Quelquefois, quand je monte dans les avions, c'est horrible. Je dis, si on se plante dans l'Himalaya, j'essaye de regarder dans les visages celui qui va me prendre la main pour me relever, me dire, viens, on est presque arrivé. Et celui qui va me manger la cuisse. Parce que...
Et vous trouvez ou pas le siège?
Oui, je trouve. 24B, et quelquefois, ça ne ressemble pas du tout à leur costume. Et on peut très bien voir quelqu'un qui paraît très équilibré. On se dit, celui-là. Et puis il y a des gens qui. On se dit, celui-là, ouais, je crois qu'il me trouverait à manger, qui me donnerait la force de continuer à marcher. Un sursaut de conscience. Et des gens qui peuvent paraître très très moraux dans la vie ne peuvent ne pas avoir ce sursaut-là, quoi, je pense que. Et je sais même pas, j'espère toujours que je serai dans ce sursaut, mais j'aurai peut-être celui qui se faufile. On ne peut voir qu'au pied du mur, je crois.
Vous croyez qu'il y a un monde d'après tout ça? Vous croyez au changement, Jean-Louis Aubert?
Comme c'est un monde de consommation, la seule manière de changer, c'est de nous changer. Les vendeurs suivront. Hein. Alors là, vous ne faites pas de soucis. Hein.
Ils s'adapteront.
Ah oui, grave. Grave. Des masques, il y en a au bureau de tabac.
On va se quitter en musique avec ce nouveau single, donc Jean-Louis Aubert, Où me tourner, sur la réédition de Refuge, avant de vous retrouver sur scène cet été, on l'espère. J'étais très content de recueillir votre témoignage ce matin. Merci Jean-Louis Aubert.
Merci à vous.
Où me tourner.
Jean-Louis Aubert était l'invité du Tête-à-Tête Europe Matin. Il est 7h52. Petite phrase et déjà petite polémique après qu'Emmanuel Macron reproche aux Français de trop se plaindre.
Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs.
L'édito politique Nicolas Bétou dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez Nicolas sur les déclarations d'Emmanuel Macron qui a dénoncé hier la traque incessante de l'erreur.
Ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir ses adversaires politiques. Au fond, c'est un sujet de philo qu'Emmanuel Macron aurait sûrement adoré traiter à l'occasion d'une de ses interviews fleuves qu'il affectionne particulièrement. Est-ce que c'est une erreur de revendiquer le droit à l'erreur?
Oui, question. Et donc, erreur ou pas erreur?
En fait, le chef de l'État a prononcé ces mots devant des scientifiques, des chercheurs, des étudiants en physique, des gens qui, parce qu'ils passent leur temps à défricher l'inconnu, côtoient en permanence l'erreur. C'est leur univers, l'erreur. Ils doivent la surmonter, s'adapter, avancer. Pour trouver, il faut chercher. Et pour chercher, il faut assumer de se tromper. Donc oui, Emmanuel Macron, de ce point de vue, a eu raison.
Oui, sauf que sa déclaration est publique et qu'elle peut donc s'adresser à tout le monde.
Ben c'est là que notre exercice de philo se corse. Dans l'entourage du président de la République, on assure que c'était une façon de vanter auprès de tous les Français la prise de risque, de rappeler l'ADN du président sur l'audace, le goût pour l'innovation, la création. Bon, c'est sûrement vrai, mais le message est un peu compliqué à faire entendre dans un contexte où, après les masques, le gel, les tests, c'est la stratégie des pouvoirs publics sur le vaccin qui est maintenant mise en accusation. Bon, bien sûr, le virus est imprévisible et les médecins qui se bousculent sur les plateaux de télé passent leur temps, eux aussi, à faire des erreurs. Mais c'est forcément plus convaincant de plaider le droit à l'erreur lorsqu'on a enfin pu aligner un succès. Et puis, inutile dans ces cas-là d'accuser les autres.
Vous parlez de ces 66 millions de Français qui sont devenus, donc, selon le chef de l'État, une nation de 66 millions de procureurs.
Ben oui, ça ressemble au tristement célèbre gaulois réfractaire. C'est le mot de trop, celui qui, en communication, écrase tout le reste du message. Et on retient, bien sûr, sa tentative de se défausser de ses propres erreurs sur les Français en leur reprochant leur défiance. Pour un dirigeant politique, c'est toujours un exercice compliqué de reconnaître une erreur. Emmanuel Macron l'avait déjà fait publiquement en soulignant que personne n'a la science infuse ou en assumant que des choses n'ont pas été faites parfaitement. C'était plus subtil, moins provoquant et certainement plus efficace.
Merci Nicolas Bétou, votre édito, le directeur du journal L'Opinion, tous les matins sur Europe 1. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Et c'est Marine Le Pen qui souhaitait lui dire un mot.
Oui, oui, bonjour monsieur Béliard. Oui, monsieur Beaune va venir, j'en suis certaine, vendre des mesurettes grotesques décidées par ce gouvernement au sujet des voyageurs venant de l'étranger. Oui, bah écoutez, on se doute ce qu'il va dire. Il veut certainement, encore une fois, imposer des tests Covid, c'est ça, aux étrangers qui souhaitent arriver sur le sol français. Ce test se fait au moyen d'un coton-tige. Enfin, bon, bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut dissuader les potentiels malades et de se rendre en France en leur imposant, pardonnez-moi, un test PCR, non pas avec un coton-tige, mais avec une brosse métallique pour récurer les biberons. Voilà. Oui, oui, monsieur Cabron, il n'y a pas de « oh, oh ». D'abord, on prélèvera plus d'échantillons qu'avec un coton-tige, et puis ça leur donnera moins envie de venir en France. Pareil à l'arrivée, on se contente d'une quarantaine dans d'autres pays. Mais moi, je le dis, il faut prévoir plus long, pour être sûr. 3 ou 4 ans dans une chambre surveillée me semble un délai minimum. Oui, vous allez me dire, c'est la prison. Oui, mais de toute façon, c'est là où finiront de toute façon les étrangers. Quelque part, on gagne du temps, c'est tout. Voilà, monsieur Béliard.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours, juste avant 8h. La revue de presse à 8h45 avec vous, Nicolas, et Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes, à 8h15 sur Europe 1. Bon réveil à tous. Europe 1. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et avant, merci Mathieu. Avant de vous parler de tempête, juste un rappel de conditions météo qui sont dans l'ensemble assez exécrables sur une grande partie de la France, excepté sur les côtes de la Manche où nous aurons des éclaircies. Mais des pluies parfois fortes, surtout cet après-midi sur le Massif central, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le Mâconnais et la Côte d'Azur. Des pluies surtout ce matin sur le Poitou-Charentes, l'Île-de-France, Paris, ça ira mieux cet après-midi sur tout le sud-ouest. Alors là, attendez, il y a le vent qui arrive, hein. Champagne et Ardennes. Et un temps exécrable aussi sur la Corse. Alors je dis que le vent qui arrive, c'est qu'il arrive sur les côtes, essentiellement sur les côtes de Gironde, du Pays Basque et sur celles des Landes. Et nous allons avoir là un temps vraiment très agité dans la matinée, avec des vents de 130-150 km/h. Non, je n'ose pas 150, je vais m'arrêter à 140 km/h en bord de mer, attention. Mais ce sont des vents vraiment très dangereux. Et en Corse également, nous aurons des rafales jusqu'à 130, même 180 km/h, cette fois sur les caps, donc en dehors des habitations. Mais vous voyez que le temps s'agite, le temps est devenu maintenant vraiment hivernal, mais dans une dimension vraiment démesurée, et nous allons avoir tout au long de ce congé de fin de semaine un peu les mêmes conditions météo avec le froid à la clé.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde change. Il est 8h.
Je pense que cette année, tout le monde s'est gardé dans un coin de la tête que peut-être qu'on allait finir en contrôle continu et qu'il fallait un peu surveiller sa moyenne générale.
Les lycéens s'y attendaient, certains l'espéraient. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé tard hier soir, les épreuves du bac prévues en mars n'auront pas lieu. Et dans le même temps, le gouvernement emploie de plus en plus le mot « confinement » comme une hypothèse pour les prochaines semaines. Le labo Pfizer va nous livrer moins de flacons de vaccins car on peut théoriquement en extraire 6 doses à chaque fois et non pas 5. Sur le terrain, les soignants vont devoir se débrouiller avec leurs aiguilles, parfois inadaptées. Dans ce journal, Jacqueline Gourault, Brigitte Bourguignon, Laurent Pietraszewski, ça se dispute parmi les ministres pour savoir qui fera passer son projet de loi avant la fin du quinquennat. Et puis l'humour, la meilleure arme contre l'homophobie, un court-métrage cartonne sur Internet et pourrait bien être diffusé aux collégiens et lycéens.
Juste après ce journal, la question des frontières, toujours à l'heure de la diffusion des variants. Conseil européen hier soir, il faudra un test PCR pour entrer en France. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme un air de déjà-vu, les épreuves de spécialité pour le bac 2021 qui étaient prévues mi-mars n'auront pas lieu. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé dans une lettre aux professeurs hier soir.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Notre spécialiste éducation à Europe 1. Cette lettre du ministre, vous avez pu la consulter?
Oui, ces épreuves auxquelles se préparaient les terminales depuis septembre sont remplacées par du contrôle continu sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale dans les enseignements de spécialité. Une décision, dit le ministre, motivée par les témoignages d'élèves et de profs inquiets car tous engagés dans une course contre la montre pour finir les programmes. Alors que 7 lycées sur 10 sont passés au cours moitié en présentiel, moitié à distance. S'ajoute à cela le risque de rupture d'égalité entre ceux qui ont continué les cours en 100% présentiel et les autres. Risque évoqué par Jean-Michel Blanquer. Le choix de reporter les épreuves en juin, comme le souhaitaient les syndicats, est écarté. Cela aurait fait perdre trop de semaines de cours, explique le ministre. Le grand oral est quant à lui sanctuarisé comme rite de passage du bac. Même chose pour les épreuves de français en première et de philosophie en terminale, mais avec des programmes allégés. Cette décision est saluée ce matin par le SNES, même si le syndicat dénonce la rupture d'égalité potentielle avec l'instauration du contrôle continu. Le ministère va d'ailleurs fournir aux professeurs un guide d'évaluation pour obtenir les notes les plus objectives possibles.
Virginie Riva.
Alors cette annulation des épreuves prévues mi-mars est-elle un indice que plus largement la situation sanitaire se tend ?
Eh bien, hier soir, autre ministre, celui de la Santé, Olivier Véran, sur TF1, qui explique qu'il attend encore les remontées épidémiologiques pour savoir si le couvre-feu généralisé à 18h est suffisant.
Aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente épidémique à l'anglaise, par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne.
C'est-à-dire ?
Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger.
Si la situation devait l'exiger, nous dit Olivier Véran, qui confirme par ailleurs que la France tiendra ses objectifs de vaccination et même les dépassera pour le mois de janvier. 1 300 000 injections auront eu lieu, au lieu d'un million prévu. Le ministre de la Santé vise un total de 4 millions d'ici fin février.
Avec une contrainte supplémentaire, le laboratoire Pfizer va réduire le nombre de flacons de vaccins livrés à la France.
Oui, car les autorités sanitaires européennes considèrent qu'avec un flacon, on peut injecter jusqu'à 6 doses et non pas 5. Et comme Pfizer, c'était engagé sur un nombre de doses et non pas sur un nombre de flacons, l'entreprise s'autorise à ralentir le rythme.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Ce changement force les soignants à d'infinies précautions.
Effectivement, prélever 6 doses au lieu de 5, c'est un geste assez particulier. Les autorités sanitaires ont publié du coup des notices techniques à destination des vaccinateurs. C'est un geste qui demande un peu plus de concentration, confirme le professeur Olivier Épaulard, infectiologue au CHU de Grenoble où 400 personnes sont vaccinées chaque jour. Et cette procédure exige aussi d'utiliser un certain type d'aiguille très fine pour limiter les pertes. Chaque dose comprend précisément 0,3 ml.
Concrètement, on veut pas que quand on reconstitue les doses de vaccin, il y en ait beaucoup qui restent dans les aiguilles de prélèvement. Mais en général, on arrive presque toujours à prélever 6 fois 0,3 ml et en fonction peut-être aussi un petit peu de l'habitude de la personne. La sixième dose est plus ou moins simple à récupérer.
Tout est fait pour équiper rapidement les centres de vaccination avec ces aiguilles adaptées, indique le ministère de la Santé. Et en cas d'échec, s'il ne reste plus assez de liquide pour la sixième dose, dans ce cas, la règle est très claire. On jette ce qu'il reste. Il y a interdiction totale de mélanger le contenu de deux flacons.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Gros changement par ailleurs pour les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne. La France demande désormais, ce sera valable à partir de dimanche, un test PCR négatif à tout voyageur arrivant sur son sol, même en provenance d'un pays d'Europe. Et à propos d'Europe, il y avait comme un parfum de scandale autour d'une instance de l'Union, Frontex, le gendarme des frontières, accusé par plusieurs médias d'avoir refoulé illégalement en Méditerranée des bateaux de migrants vers la Turquie.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Au terme d'une enquête et de 2 jours de conseil d'administration de Frontex sur ce sujet, la conclusion est qu'il n'y a pas eu de violation des droits fondamentaux.
Oui, le conseil d'administration est chargé de contrôler l'Agence européenne des gardes-frontières. Il a donc enquêté sur 13 incidents impliquant des bateaux de migrants dans la mer entre la Grèce et la Turquie. Le rapport est clair. À ce stade, les enquêteurs n'ont rien trouvé qui incrimine Frontex Ils blanchissent l'agence des accusations de violation des droits fondamentaux dans 8 cas sur 13. Pour les 5 derniers incidents, ils attendent plus d'informations. Frontex affirme avoir manqué de temps pour les fournir. Pas sûr que cela suffise à faire retomber la pression autour de l'agence et de son directeur exécutif, le français Fabrice Leggeri. La Commission européenne critique maintenant sa gestion et la lenteur du recrutement des gardes-frontières. En toile de fond de ces tensions, il y a en fait deux visions du dossier migratoire. Frontex a été chargé de lutter contre la migration irrégulière, mais voilà, la nouvelle commission a changé de ligne. Elle souhaite une approche plus humaine, au point même de rester très discrète sur le déploiement historique des premiers gardes-frontières en uniforme européen.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1.
Si on fait les comptes, il y aurait donc 66 millions de procureurs, selon le président de la République. Nicolas Bétou nous en parlait dans sa chronique juste avant le journal. Il y a aussi 43 ministres et il ne reste plus, j'ai vérifié, que 456 jours avant l'élection présidentielle, avec un calendrier déjà bien occupé, loi séparatisme, loi sur le climat et futur projet de budget.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Les ministres sont donc obligés de batailler pour décrocher une place.
Et oui, Emmanuel Macron a fixé la règle pour trancher. Il veut d'ici la fin du mois les argumentaires de ses ministres où ils défendent leur projet. On attend que César lève ou baisse le pouce, confie un conseiller ministériel. Un exemple, la ministre des Collectivités locales, Jacqueline Gourault, se bat pour sa loi 4D, nouvelle étape de la décentralisation. Ça ne parle pas assez au quotidien des gens, torpille un dirigeant macroniste. Mais la ministre a un argument sérieux. Il ne faudrait pas froisser les élus locaux à l'approche des élections.
Oui, donc d'autres ministres vont tenter leur chance ?
Oui, Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie, elle travaille sur la loi Grand Âge. On y va jusqu'au bout, dit-on au ministère. C'est un projet à 10 milliards d'euros, c'est beaucoup, surtout en ce moment. Alors en coulisses, on réfléchit à un texte peut-être moins ambitieux pour quand même avancer sur le dossier avant la fin du quinquennat et espérer marquer des points dans l'opinion. Autre exemple, le monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski, qui enverra aussi sa copie. Emmanuel Macron mouline toujours sur cette réforme, dit un de ses proches, mais c'est un sujet explosif. Beaucoup plaident pour recycler ce projet pendant la campagne.
Oui, alors le gouvernement en fait n'a plus que 6 mois utiles, hein, si je vous suis, et Emmanuel Macron veut aussi un plan égalité des chances.
Ah oui, c'est la priorité du président pour parler à la gauche, mais Matignon prévient, sans doute pas de grand projet de loi dédié. L'idée, des mesures concrètes sans passer par la case Parlement, histoire de gagner du temps tout en ayant un bilan à présenter aux Français.
Enquête signée Aurélie Herbemont. Merci Aurélie.
Vous restez bien avec nous. On va parler de ce court-métrage qui cartonne sur Internet. Car l'humour, c'est sans doute la meilleure arme pour lutter contre l'homophobie auprès des jeunes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Ce sont deux lettres synonymes d'insultes, de rejets, de discrimination. PD, c'est aussi le titre d'un court-métrage engagé et qui rencontre un vrai succès. 1,5 million de visionnages en 3 semaines.
Alors que les agressions homophobes et transphobes ont augmenté de 36% en un an, selon l'association SOS Homophobie, eh bien, l'éducation nationale réfléchit à diffuser ce film dans les écoles. Angèle Châtelier.
Olivier Lallard, le réalisateur du court-métrage PD, forme des collégiens et des lycéens au métier du cinéma. Et cette insulte sort souvent de la bouche des élèves, ce qui l'a poussé à faire un film sur l'homophobie.
Dans leur tête, c'était pas forcément dit de manière homophobe, mais c'était un peu l'insulte tendance. Et je me suis posé la question et je voulais alerter sur ce mot-là et justement le déconstruire et interpeller dessus, en fait, sur le sens de ce mot, parce qu'il peut blesser.
Pour ça, il met en scène Thomas, 17 ans, qui tombe amoureux d'un garçon. Au lycée, ça finit par se savoir et les remarques fusent.
Hey, moi, je me change plus à côté de lui. Hein.
Comment ça, là ? PD.
Dans le court-métrage, un professeur s'adresse à sa classe.
Vous, ce qu'on vous apprend de Jules César, c'est quoi ?
Un grand empereur, un grand conquérant, un grand guerrier.
Ben, Jules César, c'est aussi un grand PD.
Monsieur, vous avez dit PD, là ?
Moi, j'ai le droit, parce que je le suis.
Olivier Lallard a déjà montré son film à des lycéens, et les réactions sont en demi-teinte.
Quand on a projeté la première scène du film où les deux garçons s'embrassent pour la première fois, on entendait des bas au fond de la salle, des vraies réactions de dégoût très fortes, et où, à la fin, sur 150 élèves, on leur a demandé qui a été dégoûté, et on en a 15 qui ont levé la main, quand même.
Le chemin est donc encore long. Plusieurs académies l'ont déjà contacté pour diffuser le film dans leur établissement.
Angèle Châtelier. Et puis le groupe français Decathlon se la joue à l'américaine.
Cette musique, cette ambiance, c'est celle des parquets de NBA.
Oui, Decathlon devient distributeur officiel du célébrissime championnat de basket des États-Unis. On verra donc des produits sous sa marque Tarmac aux couleurs de la NBA et des franchises, les clubs hein, comme les Lakers de Los Angeles, le Miami Heat ou les Chicago Bulls.
Chez Decathlon, incroyable.
Exactement.
Vous savez que c'est l'entreprise préférée des Français, Decathlon,
qui conquiert les parquets de NBA.
Moi, je voudrais vous parler d'un autre homme. On va dire un mot simplement de Rémi Julien. On a appris le décès de Rémi Julien à l'âge de 90 ans, très tôt ce matin. Alors, il y a plusieurs générations. Première cascade de ce cascadeur français, 1964, Fantomas. Pour d'autres, c'est Taxi, les films produits par Luc Besson. Et on peut faire si James Bond, les films de Belmondo, La Grande Vadrouille. On va rendre hommage à Rémi Julien, décédé des suites du Covid. On l'a appris ce matin. Ce sera à 8h30, dans le journal de 8h30, avec notre spécialiste ciné, Mathieu Charrier. 8h13 sur Europe 1. Merci
Europe 1,
François, c'était le
Mathieu
journal de 8h. Pardon, monsieur. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour monsieur, bonjour Mathieu, bonjour à tous. La France va réclamer un test PCR négatif aux voyageurs européens. Alors va-t-on vers d'autres mesures? On a envie de comprendre ce matin. Le tabou du rétablissement des contrôles aux frontières a-t-il volé en éclats? A tout de suite avec mon invité, c'est le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Beaune.
A tout de suite, il est 8h14.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes.
Bienvenue et bonjour à vous, Clément Beaune.
Bonjour.
On l'a donc appris hier soir, après le sommet européen, la France réclamera à partir de dimanche minuit un test PCR négatif à l'ensemble des voyageurs européens venant sur notre sol. Il était temps.
Écoutez, on a pris une mesure, on nous dit qu'il y a un tabou des frontières, il n'y a pas de tabou des frontières. Simplement, il ne faut pas faire de petite politique avec les frontières, il faut faire de la santé. Il faut prendre les mesures qui sont utiles au bon moment pour protéger, dont des contrôles aux frontières. Je rappelle quand même, puisque vous avez raison, c'est un sujet important, tout ce qui a été fait depuis le début de la, crise. Au mois de mars, dès le 17 mars, c'est la France qui a demandé qu'on ferme les frontières extérieur à l'espace européen, car c'était le plus utile, le plus efficace. C'est toujours le cas, je le rappelle. On a renforcé cette mesure lundi dernier en demandant pour les quelques cas où c'est autorisé de venir de l'extérieur de l'Europe, y compris pour nos ressortissants, d'avoir précisément un test PCR négatif au départ.
Et troisième phase, dès dimanche donc.
Et dès dimanche, nous renforçons les mesures au sein de l'espace européen, car il y a notamment des variations du virus qui rendent la situation plus dure, plus inquiétante, plus contagieuse. Et donc nous avons pris ces mesures en coordination avec nos partenaires européens. On n'a pas traîné.
Ah, c'est important, vous dites coordination. Mais j'ai envie de comprendre, et on a envie de comprendre ce matin, monsieur Clément Beaune. Expliquez-nous pourquoi la France est l'un des derniers pays, et c'est factuel, à avoir imposé ce test à l'entrée pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, tous l'ont déjà fait en réclamant cette PCR ou alors des antigènes?
Alors, d'abord, pas tous. Je vais être
précis. Une grande partie, non mais on ne va pas jouer sur le nombre de pays.
D'accord, vous avez raison.
Il y avait des pays... coordination, d'autres pays l'ont fait avant.
Oui, il y a des pays qui l'ont fait quelques jours avant. Et donc, nous avons commencé cette coordination le week-end dernier avec l'Allemagne, l'Italie, d'autres pays. Et nous avons, jeudi soir, annoncé cette mesure après avoir vérifié que nous prenions exactement, ou presque exactement, les mêmes mesures entre pays européens. Quand on ne fait pas comme ça, on prend le risque de tension ou d'escalade des mesures entre un pays et l'autre.
Bien sûr, mais si on vous pose ces questions ce matin, ce n'est pas pour la polémique, c'est pour comprendre, est-ce que vous avez agi par idéologie? Est-ce que le dogme, finalement, des europhiles a supplanté à un certain moment le bon sens d'une maîtrise de nos frontières, tout simplement, intra-européennes?
Vous avez raison de poser la question, parce qu'on entend beaucoup ça. Je veux être justement très précis là-dessus. Il n'y a pas de tabou de la frontière. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que des contrôles peuvent être utiles. C'est pour ça que je rappelais ce qu'on a fait dans différents moments. L'espace européen, ce n'est pas une idéologie, c'est notre vie quotidienne. Je prends l'exemple simple des frontaliers. 350 000 frontaliers, c'est plus d'un million d'emplois indirects. Donc c'est une réalité concrète, ce n'est pas des gens qui voyagent, c'est des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, ils seront exemptés.
C'est important.
C'est très important pour eux. Pour être concret, ils seront exemptés de la mesure que l'on impose dans la nuit de samedi à dimanche pour les voyages intra-européens. Quand ça a été utile, on l'a fait à chaque fois.
Mais pourquoi alors, je vous cite une phrase, c'était le 9 mars dernier, Olivier Véran qui dit « fermer les frontières ou les contrôler, ça ne sert à rien, un virus, ça ne s'arrête pas aux frontières ».
Justement, je vais être précis.
Vous avez changé?
Non, pas du tout.
D'avis?
Non, on a mis des contrôles à chaque fois que c'est utile. Je le dis, on ne fait pas de politique, on fait de la santé avec les frontières. Il ne faut pas faire croire deux choses. Il ne faut pas faire croire que fermer les frontières, puisque c'est l'expression qui est utilisée parfois, ça se fait de manière magique et ça se fait sans problème. Quand vous fermez complètement une frontière, on a pris un exemple très simple. On l'a vu quand on l'a fait le 20 décembre avec le Royaume-Uni. Pendant 48 heures, c'était une fermeture complète, y compris les camions, y compris les marchandises, etc. On a vu que ça ne pouvait pas tenir totalement dans la durée. Nos propres usines avaient des problèmes d'approvisionnement. On avait des problèmes d'approvisionnement alimentaire dans les deux sens.
Très bien.
Voilà. Donc,
qu'il y ait des problèmes, expliquez-nous ce matin, Clément.
Pardon, j'insiste aussi. C'est un outil, parmi d'autres, dans la lutte contre le virus. Faire croire aux gens faire croire aux gens que la frontière serait le seul remède.
Non, non, et on a envie de comprendre pourquoi.
Et c'est pour ça que j'explique.
Nos voisins n'ont pas eu ces pudeurs parce qu'effectivement, ils ont demandé ces mesures, ces tests avant nous. Si je me déplace.
Non, je tiens à le préciser, pardon. Tout le monde ne l'a pas fait. Certains l'ont fait quelques jours avant
vous
nous.
Vous pouvez rappeler alors qui l'a fait comme ça
et ben, l'Allemagne, l'Italie,
la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal.
Exactement.
Ça fait quand même pas mal de pays, monsieur
ça
le secrétaire
n'est pas le cas,
d'État.
Par exemple, des Pays-Bas, ce n'est pas le cas d'autres pays. Mais on est à quelques jours près, coordonnés, et on n'a aucun problème, on le fait.
Alors si je me déplace, soyons concrets, en voiture ou en camion, à qui vais-je montrer mon test PCR, étant donné qu'il n'y a plus de douaniers aux frontières.
Alors, pour le transport routier, précisément, et pour les frontaliers, c'est-à-dire pour le transport terrestre, il n'y aura pas cette exigence à partir de dimanche. C'est une exemption pour des raisons, là aussi, d'efficacité. On voit bien qu'on cherche un équilibre. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner de manière magique ou en faisant de la frontière un totem. Il faut être pragmatique, efficace, pour les frontaliers, pour le transport routier, parce que c'est notre alimentation, c'est parfois nos médicaments.
Bien sûr.
Nos vaccins, ils viennent de Belgique. Si vous avez une fermeture de frontière, vous n'avez plus de vaccin. Bon, donc il faut être pragmatique
donc
aussi.
Donc c'est clair sur ce point. Et maintenant,
sur le transport terrestre, il y a une exemption, on est clair.
Est-ce qu'il faut, Clément Beaune, imposer une quarantaine aux voyageurs européens en plus de ce test PCR négatif à partir de dimanche ? Par exemple, la Belgique l'exige.
Oui, quelques pays, pour le coup encore moins de pays, quelques pays l'exigent. Pour l'instant, ce n'est pas prévu et nous adaptons notre dispositif rapidement à chaque fois qu'il est besoin. Pour être très concret, c'est un test PCR au départ, moins de 72 heures, pour tous les voyages intra-européens dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de là, sauf pour le transport routier.
D'accord. Et est-ce que la France déconseille les voyages touristiques entre pays européens ? Est-ce que vous le déconseillez ? Est-ce que ce matin, vous dites, écoutez, compte tenu du risque de propagation de ce variant, on vous déconseille de voyager ?
Je crois qu'il faut que chacun soit responsable, mais...
Attendez,
aussi,
vous le dites, c'est la voix de la France
bien
sur ce
sûr.
Sujet. Vous déconseillez les voyages touristiques entre pays européens ?
On l'a dit hier au cours du Conseil européen, ce qu'on appelle... Parfois, l'expression est mal comprise.
Ne me dites pas
non essentiel
ce matin. Ah,
c'est pour ça que je ne le dis pas, mais c'était l'expression du président du Conseil européen. Mais c'est pour ça que je fais appel à la responsabilité.
La technocratie.
Pardon, mais les voyages, ce que vous appelez touristiques, appelons-les comme ça, oui, on les déconseille. Mais de toute façon, la question, ce n'est pas tellement de déconseiller ou pas. Il y a une mesure qui s'impose, qui sont ces tests PCR pour tout le monde, qui doivent être négatifs et récents, moins de 72 heures. Donc, vous voyez, on agit au bon moment, avec les mesures proportionnées.
Oui, et si on vous pose ces questions, c'est parce que les 66 millions, Clément Beaune, de procureurs, alors qu'un confinement nous pend au nez, sont en droit de vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait avant.
Bien sûr, mais c'est pour ça que j'essaie
c'est
d'expliquer.
C'est pas être procureur de vous poser ces questions.
Non, j'accepte volontiers l'audience. C'est pour ça que je rappelle, je ne veux pas qu'on donne l'impression d'une sorte de tabou ou de laxisme. Je rappelais tout ce qui avait été fait sur les frontières extérieures, c'est nous le premier pays qui l'avons fait. Quand on a eu des périodes de confinement, au mois de mars par exemple, ou cet automne, de fait... Il n'y avait plus de circulation autorisée aux frontières, y compris intra-européennes, sauf pour les choses très urgentes comme le travail
mais
frontalier.
Mais si on allait plus loin, est-ce qu'une fermeture des frontières au sein de l'UE est une option sur la table ? Puisque vous n'avez
aussi,
plus de tabou
ça,
à en parler apparemment.
C'est pour ça que ceux qui disent un peu facilement « fermer », qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est la fermeture complète, sans dérogation, c'est-à-dire il n'y a plus de passage du tout, je crois que ce serait une folie.
Une maîtrise de ces
oui,
frontières.
Mais
oui.
Une maîtrise, c'est quoi ? C'est précisément des tests, c'est des contrôles dans nos ports, dans nos aéroports. Et on le fait de manière proportionnée. On a regardé si c'était faisable, souhaitable sur le transport routier. Notre sentiment aujourd'hui est que ça n'est pas faisable et pas souhaitable. Donc on prend des mesures de contrôle, de restriction. Vous savez, dans cette crise, si on a vu le tabou sur les restrictions en général,
oui,
on n'aurait pas agi.
Mais c'est vous qui disiez que le virus n'avait pas de passeport. On se
mais
rend compte que ceux qui l'ont, ont un passeport. Vous maintenez que le virus n'a pas de passeport ?
Mais bien sûr, le virus n'a pas de passeport.
Mais on est en train de contrôler les frontières.
Mais, pardon, j'essaie d'expliquer. On restreint la circulation en général, au sein du pays, au sein de l'espace européen et encore plus au niveau mondial, en essayant de se focaliser sur l'essentiel. C'est pas pareil de faire un Paris-New York pour un voyage touristique, ça c'est interdit depuis des mois, et de faire un déplacement de travail frontalier entre Strasbourg et l'Allemagne.
Bien sûr.
Bon, ça on l'autorise, donc on prend des mesures proportionnées. Franchement, il n'y a aucun tabou là-dessus, mais je ne veux pas, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, qu'on fasse croire aux gens que la frontière fermée ou même la frontière contrôlée, c'est le remède miracle. C'est un outil, on l'utilise, vous le voyez, de manière concrète, pragmatique. Mais ça ne sera pas la seule manière d'éviter que le virus soit sur
Clément
le territoire
Beaune,
français.
Depuis des mois, les oppositions et certains scientifiques vous demandent ces contrôles aux frontières. Vous les faites aujourd'hui. C'est ça qui nous surprend.
Non, non, non.
Pendant que les Français sont dans les transports en commun, pendant que les Français se regroupent, ces frontières n'ont pas été suffisamment contrôlées.
Je veux être précis. D'abord, à chaque fois qu'il y a eu des mesures de confinement, les frontières ont de fait fait l'objet de quasi-fermeture. Les frontières extérieures, je le rappelle aussi, sont fermées depuis le 17 mars. On ne les a pas ouvertes et on a encore durci les mesures de précaution. Donc ne dites pas que les frontières sont ouvertes, ça n'est pas vrai. Et dans l'espace européen,
mais on pouvait passer facilement que d'autres pays européens avaient mis en place ces mesures. C'est une réalité.
Depuis quelques jours, certains pays européens avaient des mesures.
Oui, mais c'est une course contre la montre, monsieur le secrétaire d'État. Chaque jour compte.
C'est pour ça que nous l'avons fait, sans tarder, ce jeudi. Et le président de la République l'a annoncé, décidé au cours du Conseil européen. Dans l'heure qui a suivi, nous l'avons annoncé et ce sera mis en place sous 48 heures, le temps de l'organiser.
Alors, lors du sommet européen hier, il a été dit concernant les livraisons de doses, je cite, que les engagements de livraison des industriels doivent être respectés. Sinon quoi ?
Bah absolument, c'est un
contrat. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe si ça ne l'est pas ?
Il peut y avoir des pénalités ou des sanctions.
Mais des sanctions contre les laboratoires ? Pfizer ?
On l'a signé, nous, Européens, des contrats avec ces laboratoires. Ces contrats, ils sont obligatoires. Et d'ailleurs, le cadre européen, là aussi, nous aide. Je rappelle l'épisode qui s'est passé vendredi dernier. Le laboratoire Pfizer a annoncé des retards de 3 à 4 semaines de livraison. C'était évidemment inacceptable.
Et donc,
la présidente de la Commission européenne, à notre demande, a appelé immédiatement le PDG de ce laboratoire, dès le vendredi après-midi. Et dès le samedi matin, le laboratoire a dit « On ne fait qu'une semaine de délai pour adapter notre outil de production. »
Mais d'autres pays vont plus loin. L'Italie, par exemple, ne s'autorise à attaquer Pfizer en justice après les retards de livraison. Est-ce que la France l'exclut ?
Non, c'est le seul pays qui fait ça en Europe, l'Italie.
Vous me citez toujours les exceptions, mais c'est quand même un pays important dans l'Union européenne.
Mais le but, ce n'est pas de faire un procès qui va durer 2 ans. Le but, c'est d'avoir les livraisons de doses maintenant. Et c'est pour ça que c'est plus utile d'avoir mis la pression sur Pfizer, pour que les doses arrive. Cette semaine, nous avons eu un léger creux dans les livraisons de Pfizer, mais on avait un peu de stock. Et dès le 25 janvier, donc dès lundi prochain, le rythme de livraison contractualisé reprend.
Mais c'est qui met la pression ?
Ça accélère mi-février.
Est-ce que c'est nous qui mettons la pression sur Pfizer ou Pfizer qui nous met la pression, puisque le laboratoire adapte désormais ses livraisons de vaccins en se basant donc sur 6 doses par flacon, donc moins de doses livrées notamment à la France ? C'est nous qui subissons aussi les pressions.
Non. C'est deux sujets différents, cette histoire de doses. Pfizer a réduit cette semaine les livraisons de flacons. Encore une fois, nous avons limité cela à une semaine. Pourquoi ils le font ? J'insiste aussi, c'est pas n'importe comment.
Il y a une recommandation, certes.
Pourquoi ils le font, cette adaptation ? Parce que ça permettra de produire plus ensuite. Et l'idée que la 6e dose, comme on l'évoque parfois, est une sorte de compensation de ce retard de livraison, ce n'est pas du tout le cas.
Oui, mais ça nous oblige à un prélèvement très précautionneux, ça.
Absolument.
En France notamment. Ce n'est pas rien, c'est un défi.
Absolument. Mais nous faisons ça, non pas sous la pression des industriels, mais sur la base d'une recommandation scientifique. C'est la seule chose qui déterminera le nombre de doses que vous prenez dans un flacon. Ça n'est pas la pression de l'industriel ou ça n'est pas une compensation d'un retard de l'industriel qui nous guidera.
Puisque nous parlons de pression, Clément Beaune, comment allez-vous demander à Sanofi de produire en France, dans ses usines, dans nos usines, les vaccins ?
Eh bien, parce qu'il y a des sites de production de Sanofi en France, d'abord, qui existent, donc on ne va pas les inventer. On a financé un certain nombre d'investissements supplémentaires dans ce domaine, pour Sanofi comme pour l'autre, mais pour Sanofi aussi. Et on est en train de regarder, la ministre de l'Industrie s'y emploie, comment Sanofi, en attendant de produire son propre vaccin, peut produire d'autres vaccins.
Ça prend du temps.
Non, attendez. Regarde, je veux quand même qu'on dise, évidemment, il y a une impatience et un ras-le-bol, et je le comprends très bien, moi aussi, je voudrais me faire vacciner le plus vite possible. Mais regardons quand même les choses. Les industriels, on peut les vilipender. En 9 mois, on a trouvé ce vaccin. Mm-hmm. D'habitude, ça prend entre 5 et 10 ans. Mm-hmm. On a signé un contrat, on adapte nos commandes. On a doublé la commande européenne de vaccins Pfizer-BioNTech, 600 millions de doses. Il y en aura plus de 90 millions pour la France.
On va suivre tout cela. En tout cas, c'est un défi, une question de souveraineté également, pour conclure.
C'est une question de souveraineté, parce que nous avons vu un certain nombre de manques sur les médicaments, sur les masques, dans les productions européennes. Je veux dire aussi qu'on les a rattrapés. Les masques dont on a beaucoup parlé, aujourd'hui, on produit 100 millions de masques nous-mêmes sur le territoire français chaque année.
Merci Clément Beaune.
Chaque semaine, c'est important.
Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous, l'info Hélène Zélani dans quelques secondes sur Europe. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
On lui devait les scènes les plus spectaculaires de plusieurs James Bond. Le cascadeur Rémi Julien est mort des suites du Covid. Il avait 90 ans. On revient avec vous, Mathieu Charrier, sur une carrière menée à 200 à l'heure.
Ah oui, Rémi Julien, on lui doit, écoutez bien, 1400 scènes de cascade, plus de 50 ans de carrière. Alors si je vous donne quelques exemples des réalisateurs avec qui il a travaillé, Georges Lautner, il y avait toujours une petite voltige automobile, Sidney Pollack, Jean-Jacques Hano, Gérard Oury, François Truffaut, Costa Gavras, Roman Polanski. Rémi Julien a même coordonné les cascades de 6 James Bond. dans Dangereusement Votre par exemple. C'est lui qui imagine la fameuse scène de course-poursuite, vous savez, où la Renault 11 que conduit 007 est décapitée, puis coupée en deux. Roger Moore disait « Sans Rémi Julien, James Bond n'aurait pas existé ». Alors au départ, Rémi Julien a d'abord connu une carrière dans la moto, champion de France de motocross en 1957, puis il rencontre Gilles Delamarre, cinéaste trompe-la-mort, qui lui présente Belmondo, Bébel. Les deux hommes ne se quitteront plus. Il l'engage pour tourner quelques scènes d'action à moto dans Fantomas, puis Rémi Julien travaille sur La Grande Vadrouille. Et rappelez-vous par exemple, dans Le Guignolo de Georges Lautner, Belmondo survole Venise, accrochait un hélicoptère à la seule force de ses bras. Et bien, c'était une cascade coordonnée par Rémi Julien. Une fois, il s'est vu mourir sur le tournage de Rabbi Jacob. Lorsque la déesse se retrouve avec son bateau sur le toit, c'est lui qui est au volant. Il est resté coincé sous l'eau avant qu'on ne vienne le secourir. Voilà 400 films au compteur. Je pourrais vous citer Taxi, Luc Besson, Le Da Vinci Code, Peur sur la ville. Rémi Julien a fait de la France la référence mondiale en matière de cascade. Aujourd'hui, ses fils, Michel et Dominique, Julien et son petit-fils, David, ont repris le flambeau.
Merci Mathieu Charrier. Et la sortie du prochain James Bond est repoussée pour la troisième fois. No Time to Die, Mourir peut attendre avec Daniel Craig, devrait, si tout va bien, sortir le 8 octobre. Pour l'instant, pas de reconfinement. On attend les résultats du couvre-feu à 18h. C'est en substance qu'a dit Olivier Véran hier soir sur TF1. Selon le ministre de la Santé, la majeure partie des vaccinations se passe bien. Tous les Français devraient pouvoir être vaccinés d'ici la fin août. Sauf que Pfizer met un coup de frein sur les livraisons. Bonjour Victor Delande.
Tout
est parti d'une recommandation de l'Agence européenne des médicaments.
Cette mesure va dans le bon sens, ça vient renforcer la présence.
On va retrouver Victor Delande, un tout petit point technique pour se retrouver avec Victor Delande qui est en ligne avec nous.
Oui, comme les flacons de 5 doses livrés par Pfizer contiennent en fait de quoi en injecter 6, l'Agence européenne des médicaments a recommandé il y a 2 semaines de ne pas gâcher et donc d'utiliser cette 6e dose. Les autorités sanitaires ont alors pensé qu'elles avaient gagné de nouveaux vaccins. Sauf que Pfizer s'est engouffré dans la brèche et a décidé de diminuer le nombre de flacons livrés. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque la France commandait 1000 doses, elle recevait 200 flacons. À partir de la semaine prochaine, ce sera 166 flacons qui seront envoyés. Ce qui pose un problème considérable car il n'y a plus de perte possible. Il y a 15 jours, cette 6e dose était un bonus pour vacciner potentiellement une personne de plus. Avec cette décision de Pfizer, ce bonus s'est transformé en une grosse contrainte.
Victor Delande, situation préoccupante à l'hôpital de Dieppe en Seine-Maritime. 141 membres du personnel sont en arrêt parce qu'atteints du Covid. Près de 40% des opérations ont été déprogrammées pour les patients non urgents. L'ARS a déclenché la réserve sanitaire régionale et nationale. Pas d'épreuve de spécialité du bac pour les élèves de terminale prévues à la mi-mars. Elles sont finalement transformées en contrôle continu. Quant aux étudiants, ils vont pouvoir revenir dans les locaux de leur fac au moins un jour par semaine, mais avec une jauge maximum dans les amphis de 20%. Malgré les difficultés d'organisation, le président de l'Université Lyon 1, Frédéric Fleury, se réjouit de cette décision.
Cette mesure va dans le bon sens, ça vient renforcer la présence des étudiants à l'université. On avait besoin de prendre des mesures qui permettaient aux étudiants de revenir sur les campus, de revenir voir leurs enseignants en présentiel, de retrouver un semblant de vie étudiante, de lien social, ce qui est, on le sait, des facteurs de réussite pour les étudiants. Et on souhaite que cette mesure soit applicable au plus tôt sur l'ensemble du public étudiant.
Le président de l'Université Lyon 1 avec Jean-Luc Boujon. L'Union européenne appelle à limiter au maximum les déplacements entre les différents pays pour entrer en France. À partir de lundi, il faudra un test PCR négatif quand on vient d'un autre pays européen. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, qui était à l'instant sur Europe 1, affirme qu'une quarantaine au retour n'est pas prévue. Pour l'instant. Maintenant, une expérience totalement inédite, un exercice de sécurité grandeur nature dans une centrale nucléaire. Pour la première fois, des journalistes ont été autorisés à y assister. C'était à Paluel, en Seine-Maritime. Une série de problèmes étaient simulés et pour les gérer, les 300 membres de la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire, passaient à l'action. Écoutez le reportage d'Élise Dongean.
Ouais, PC FARN, PC FARN de FARN D.
Pendant plusieurs jours, des exercices simultanés sont réalisés sur le site de Paluel, en salle de commande où le réacteur est piloté grâce à un simulateur, et sur le terrain avec les équipiers de la FARN, reconnaissables grâce à leur casque rouge. Le scénario du jour est corsé. Tempête, risque vague submersion, perte du réseau électrique et évidemment pandémie. À cela s'ajoutent les aléas techniques sur le réacteur. Bref, la totale.
Le scénario d'aujourd'hui, il a une chance sur 1 million de se produire.
Mais c'est un indispensable pour tester au mieux les équipes, dit Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale.
Le principe de la gestion de crise est assez simple. Il faut qu'on assure tout le temps le refroidissement du réacteur et qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère des produits radioactifs. Et donc pour faire ça, il nous faut tout le temps de l'eau et de l'électricité.
Alors les uns se chargent de récupérer l'eau du bassin, les autres acheminent des kilomètres de tuyaux jusqu'au réacteur, pendant que l'hélicoptère apporte du matériel. Une organisation quasi militaire, et pour cause, les femmes et les hommes de la Farne ont reçu une formation inspirée de l'armée et de la protection civile. Résultat garanti.
Oui, la mission a réussi.
Prochaine mission dans quelques mois. En tout, la Farne réalise 5 à 6 exercices de ce genre chaque année.
Immersion à la centrale de Paluel, signée Élise Dangean. Et puis vous connaissez sans doute la marque Duralex avec le fameux verre taquelage à la cantine. L'entreprise française est en redressement judiciaire ainsi que ses 248 salariés attendent de connaître leur avenir. Le tribunal de commerce d'Orléans doit statuer sur les 3 repreneurs en lice, notamment la maison mère de Pyrex dont l'usine est installée à Châteauroux.
Merci Hélène Zellani. Puis je vous l'ai promis, hein, de la musique ce matin. Alors on a écouté avec vous Hélène d'ailleurs à 7h du Mozart, la flûte enchantée. On a écouté Jean-Louis Aubert. Un peu plus tard, on va passer aux comptines pour enfants.
Savez-vous bouger le cou à la mode, savez-vous bouger le cou à la mode de chez nous.
Pas n'importe qui, les retrouvailles entre deux anciens membres du groupe de rap Section d'Assaut, Gims et Black M. Oui, parce qu'on dit Gims maintenant, plus Maître Gims. Un extrait ici du nouveau projet de Black M, Alpha, et le morceau s'appelle César.
Allez bouger tous comme César.
Avant la grande tournée de Section d'Assaut prévue à partir du printemps prochain, savez-vous planter des choux revisités? Quelque chose me dit qu'on va l'entendre à la maison. 8h39 sur Europe 1, très bon réveil si vous vous réveillez, bienvenue si vous nous rejoignez. Laurent Cabrol est là. Comment on s'habille Laurent? Il y a de la pluie, du vent, c'est difficile aujourd'hui.
Il y a de tout, hein, et surtout du vent, et on attend Hortense. Vous savez, Hortense, c'est la tempête qui sévit actuellement dans le golfe de Gascogne. 80 km/h pour l'instant de vent à Biarritz, 110 à Tarbes, et nous avons là, en perspective des 120-130 sur les côtes, des côtes qui sont dangereuses, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, la Corse aussi, les Landes, et bien entendu le Lot-et-Garonne qui n'est pas totalement exclu d'avoir des rafales de vent extrêmement importantes. Sachez que de toute manière, le temps est à la pluie, avec quelques exceptions. Les côtes de la Manche, où nous aurons un ciel, certes, un peu troublé mais sans intempérie majeure, et puis une amélioration progressive sur la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire et le Poitou-Charente, où il ne pleuvra pas, il ne pleuvra pas là cet après-midi, notamment sur Paris. Partout ailleurs, c'est du grand vent, c'est de la pluie, notamment sur la région Rhône-Alpes, et nous aurons dans l'ensemble un temps vraiment exécrable avec des températures qui sont un petit peu en hausse, entre 9 et 14 degrés dans l'après-midi. Et sachez que demain et après-demain, ce sont vraiment des journées d'hiver avec peut-être de la neige sur la moitié nord, et en particulier dans la capitale.
Merci beaucoup voilà. Laurent Cabrol. 8h40 sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. Jimmy Mohamed, notre santé avec le médecin d'Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h41 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec cette période un peu particulière que nous vivons, certains parents seraient tentés d'acheter une console de jeux vidéo à leurs enfants. Vous nous dites pourquoi pas, mais qu'il faut les accompagner.
Oui, alors c'est vrai que les jeux vidéo, comme tous les autres jeux, font partie du divertissement. Le propre du divertissement, c'est de procurer du plaisir et donc de s'amuser. Et quels que soient les jeux, il y a quelques règles à respecter. Alors, le premier conseil qu'on peut donner aux parents qui nous écoutent, c'est d'apprendre aux enfants à jouer. De la même manière que vous leur avez appris à se brosser les dents ou à faire du vélo, accompagnez-les dans cette démarche. Ce qu'on peut leur proposer, c'est justement de jouer aux jeux vidéo avec les enfants ou bien de les regarder jouer régulièrement. Ça va leur permettre d'apprendre à maîtriser leurs émotions, d'apprendre à gagner ou à perdre, à être fair-play. Bref, les jeux vidéo permettent malgré tout ce qu'on dit, un apprentissage de certaines valeurs de la vie. Alors, il y a des règles, malgré tout, comme je disais, à respecter, notamment celui de l'âge. Souvent, on se demande à partir de quel âge on peut proposer un jeu vidéo à un enfant. Alors, une règle toute simple, jamais avant 3 ans, pas d'écran d'une façon générale. Et certains experts poussent le curseur jusqu'à 6 ans et je vous conseille de respecter cette règle. Alors, il y a aussi derrière les jeux vidéo, pour les parents qui ne sauraient pas, une classification qu'on appelle la classification PEGI qui va définir les publics de jeux en fonction de leur âge. Et puis, si jamais vous avez craqué, que vous avez acheté un ordinateur ou une console de jeu, je vous conseille plutôt de la mettre dans le salon que dans la chambre pour avoir notamment un meilleur contrôle.
Oui, pour garder un œil, effectivement. Comment est-ce qu'on gère cela avec un adolescent? Là, c'est forcément un petit peu plus compliqué, Jimmy.
C'est vrai qu'à partir de 13 ans, l'enfant s'autonomise de plus en plus, y compris dans sa pratique des jeux vidéo. Et c'est un âge de transgression. Alors, il va falloir trouver un compromis entre l'autonomie et le contrôle. Être vigilant, ça ne veut pas dire avoir un contrôle strict. Gardez votre énergie pour des combats plus importants, en particulier si votre enfant a joué 1h15 au lieu d'une heure, c'est peut-être pas dramatique. Il faut savoir que l'adolescent va forcément commettre quelques excès, comme jouer toute une après-midi chez un ami ou bien alors faire une nuit blanche. Ce qui doit vous inquiéter, c'est la répétition de ces excès. Et puis, le maître mot dans les jeux vidéo, puis même dans l'éducation d'une façon générale, c'est la communication. Et parfois, c'est compliqué. Ce qu'on peut vous proposer, c'est, vous savez, quand on joue aux jeux vidéo, on a tendance à avoir un peu faim, à aller grignoter dans le frigo. Eh bien, dans ces endroits stratégiques où l'adolescent va passer, de mettre un post-it pour lui délivrer un petit message. Ne joue pas plus de 2 heures. Attention, fais tes devoirs. Une façon de rétablir la communication. Et si jamais vous avez d'autres interrogations, je vous recommande le livre qui s'appelle « Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ?» C'est des conseils de vie au quotidien. C'est écrit par le docteur Bruno Rocher aux éditions John Libet.
J'imagine très bien les post-it chez Jimmy Mohamed entre les chips et le coca. Je rappelle juste, non mais cela dit, c'était mesuré ce que vous avez dit, c'est important. On accompagne les enfants, Jimmy Mohamed, plutôt que de diaboliser les jeux vidéo. Merci, notre santé. Nous passons à Fanny Agostini, notre planète comme tous les matins. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez transport avec les lignes ferroviaires nationales qui s'ouvrent à la concurrence. Et c'est un bon point pour l'écologie.
Oui, et c'est tout frais. Ça date de décembre dernier. L'Union européenne a acté l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires nationales. Car jusqu'ici, eh bien, la SNCF était à la fois propriétaire des réseaux ferrés de France et aussi leur principale exploitante. Mais désormais, d'autres opérateurs pourront faire rouler des trains avec voyageurs. L'occasion pour certains acteurs de profiter de cette ouverture à la concurrence pour mettre un coup d'accélérateur à la transition écologique. C'est le cas de l'entreprise Railcoop. Retenez bien ce nom car vous voyagerez bientôt sur Railcoop. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui ouvrira une ligne de fret en 2021 et une ligne de voyageurs en 2022.
On va retenir Railcoop. Alors comment Railcoop apporte une contribution écologique au transport, Fanny ?
Alors, l'argument écologique de Railcoop, c'est d'exploiter des lignes SNCF qui ont été abandonnées ces dernières décennies. Car au fil du temps, les coupes budgétaires ont donné priorité aux axes Paris-Provence et puis aussi à certains axes entre les plus grandes villes, au détriment des maillons plus fins du territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout de même, un tiers des gares ne sont plus desservies. Alors qu'il faut bien le dire, le train est une alternative 12 fois moins polluante que la voiture pour transporter voyageurs et objets.
Ça pourrait améliorer la mobilité en France et inciter à moins prendre sa voiture, si je vous suis, à ne plus prendre l'avion pour les vols domestiques.
Bah oui, par exemple, en tout cas c'est l'avenir hein, qui nous le dira, mais c'est une vraie opportunité, vraiment. D'autant plus que 90% des Français vivent à moins de 10 km d'une gare. C'est vraiment tout bénef pour la société Railcoop qui veut investir ses lignes ferroviaires délaissées et ainsi diminuer l'empreinte carbone de la mobilité.
Merci beaucoup Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1, hein, il est 8h46. Vous restez bien avec nous à suivre la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h48 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Mathieu, vous êtes d'accord? On vous retrouve pour l'actu? Allez,
c'est parti.
Cher Julie, bienvenue pour l'actualité sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a déclaré, nous l'avons repris, la France est une nation de 66 millions de procureurs. C'est très exagéré. S'il y avait vraiment, franchement, Julie, 66 millions de procureurs, est-ce que Patrick Balkany serait encore en train de se la couler douce chez lui à Levallois? Non. En tout cas, Emmanuel Macron en a assez qu'on le critique quand il fait des erreurs. Oui, mais nous, on est obligés sur Europe 1. Si on ne le critique jamais, on va se faire attaquer pour plagiat par BFM Télé.
Oula.
Allez, l'autre info. Ça y est, vous l'avez.
Allô, Marco.
Allez, l'autre info. On a tapé sur les copains. Allez, c'est Amazon qui pourrait racheter les droits de, vous l'avez entendu, de la Ligue 1. Un candidat surprenant. Ouais, salut. Bonjour. Vous parlez à la coulée douce. J'arrive. Bonjour.
C'est Fabien Barthez. Bonjour.
Ouais,
mais ça fait plaisir de vous voir, ça fait tellement longtemps. Hein.
Tiens, c'est depuis 98 et je n'ai pas parlé au micro. Là.
Dites, on vous voit partout là, pour défendre Michel Moulin à la présidence de la Fédération française de football. Vous prenez position sur tous les sujets et donc Amazon qui rachèterait les droits du foot. Et ça vous inspire quoi ?
Ouais, ben, au contraire de Mathieu, là, je ne trouve pas que ce soit un candidat surprenant. Hein. Je vois, moi, sur Amazon, franchement, j'achète que des merdes. Des tire-bouchons, des décapsuleurs, des trucs pour mettre sur la coque, là, des coquetiers, des embouts pour un arrosoir. Mais la Ligue 1, elle a toute sa place parmi toutes ces merdes.
Hein. Oh, mais ça va pas, non.
Mais attends, t'as pas vu le match de l'OM cette semaine contre Lens? Et si Jeff Bezos, là, le gars à l'Amazon, le patron, là, il met plus de 5 euros sur les droits, il se fait arnaquer, hein, il se fait intimer. Hein. S'il ne sait pas quoi faire sur nos oeils, moi, je... Ah tiens, par exemple, j'ai mon beau-frère, il vend sa Kangoo d'occasion, là. 300 000 bornes, il manque de feu et le pare-brise est fissuré. Mais à mon avis, c'est une meilleure affaire que la Ligue 1.
Oh, allez, c'est bon. Oh, allez, on vous laisse, Fabien. Mais à bientôt.
Oh,
hein.
Putain,
on
n'attend pas. Venir, hein.
On n'attend pas 20 ans pour se parler.
Ouais, avec plaisir.
Christiane, je les ai fait marrer chez Europe.
Hein. Emmanuel Macron était tiré à Saclay. Le chef de l'État a détaillé un plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans les technologies quantiques. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, quelle vision d'avenir exaltante, la technologie quantique, Madame Julie. Terminez les machines analogiques, c'est fini tout ça. Désormais, nous servirons des atouts mathématiques, nous en servirons pour l'intrication quantique.
Oula.
Et puis également pour la superposition non linéaire des particules dans l'espace non euclidien qui régit l'équation de Schrödinger dans une logique de von Neumann non probabiliste, bien sûr.
Bien sûr.
C'est fini le temps non ambigu, à condition bien sûr que le spectre vectoriel soit présent.
Et
il nous a... Oula, un petit mouchoir, un Kleenex. Il y a Monsieur Cabrol qui saigne du nez, là. Quelqu'un...
Bon, écoutez, reconnaissez que c'est pas simple, là. Laurent, bah alors...
Ça chauffe de partout. Je suis pas peu de mettre le jingle, j'ai rien à dire. Je saigne juste. Même quand je saigne, on met un jingle.
Alors, reconnaissez, Monsieur le Président, que c'est pas simple à comprendre, tout ça.
Oui, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Je sais, j'oublie à chaque fois, la pensée complexe, c'est pas votre truc.
Bon, non.
Tu le sais, Emmanuel, tu le sais, Emmanuel, ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour eux. Il faut que tu penses pédagogie. Pardon, alors, excusez-moi, ouais, je vais me parler à moi-même.
Ensuite, vous avez rencontré des étudiants, hein, toujours à Saclay. Les jeunes souffrent, hein, cette année.
Oui, je sais. Je comprends les causes de cette souffrance. J'ai écouté du Jul et j'ai vu des épisodes de... Et j'ai vu des épisodes des Marseillais à Cancun, donc je comprends. Pauvre jeune.
Et puis, vous avez annoncé des repas à 1 euro pour tous les étudiants.
Voilà, exactement. Je le dis à toutes et tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux, les étudiants et les étudiantes qui étudient, les élèves qui s'élèvent et les jeunes qui jeûnent.
C'est joli, hein, ça l'a
dit. Ah oui, là, oui, c'est bien vu en plus.
Oui, je ne maîtrise pas que les chiffres, très, très aussi la poésie. Après, bon, je les ai goûtés, ces repas à 1 euro. Vous allez voir, ça a le goût de trucs qui coûtent moins d'un euro. Hein, forcément. On ne vous vole pas sur la marchandise. Moi. Mais moi, à votre place, je crois que je préférerais continuer à ne pas manger, à jeûner les jeunes.
Eh bien, merci, Monsieur le Président. Merci, à bientôt. Durant cette réunion, Emmanuel Macron en a profité pour fustiger les Français mécontents. À ses yeux, nous sommes donc une nation de 66 millions de procureurs. Et puis, il a fustigé cette traque incessante de l'erreur. Bonjour, Jean Castex.
Oui. Eh bien, nous aussi, voilà. Bonjour, Mme Julie, Monsieur Béliard, Cabron, Monsieur Paul Arsène. Et bonjour à papy et mamie qui nous écoutent en cherchant quel sera le prochain reproche qu'ils pourront nous faire. Ah, ils commencent à nous courir sur le haricot vert, papy et mamie. Hein. Écoutez, non, franchement, là, je suis totalement en accord avec le président.
Emmanuel Macron qui a déclaré « Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne cherche pas, qui ne fait rien. Pour lui, l'erreur est ce qui permet d'avancer. »
Mais exactement. L'erreur, la connerie, disons les mots, oui. Si je peux utiliser un langage trivial, c'est ce qui permet à chacun, à chacune de s'améliorer. Et je le dis au chef de l'État, des conneries, et j'ai l'intention encore d'en faire beaucoup.
Ah ben dis donc,
ça promet. Tout le gouvernement est avec moi dans cette entreprise. Nous pouvons faire des petites conneries,
des grosses conneries, des conneries d'énarques, des conneries de couillons de base. Et comme ça, progressivement, nous allons avancer. Nous allons progresser.
Il va être ravi, le président, de vous entendre. Merci Jean Castex. Merci beaucoup. Jean Castex qui, hier, justement, recevait les syndicats pour parler de la réforme des retraites. Alors, du côté syndical, comment on envisage ce bras de fer avec le Premier ministre ? On en parle avec notre représentant SNCF, Monsieur Régis.
Bonjour. Qui c'est qui a dit « Ah, c'est Monsieur Cabrol ?» C'est un usager. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tout le wagon. Écoutez, nous, on est ravis de l'avoir, Jean Castex, comme partenaire. Ah oui, on est ravis. Mais ravis. C'est le meilleur choix possible, Jean Castex. Castex, président. Ah oui, président, il faudrait qu'il soit formidable.
Alors, vous pensez qu'il va, il va vous permettre de trouver un accord ?
Non, pas du tout. Justement, je pense qu'il va faciliter le retour à la grève et ça... Ça fait quand même plaisir après un an de pandémie.
Ah d'accord, éloge de la grève, la grève.
Oh, oh la grève, elle croit quoi la vedette ? Je suis un artiste de la grève, moi, faut pas oublier, un vrai artiste. Et comme tous les artistes de la grève ou les artistes tout court, nous, la scène nous manque. Moi, ma scène, c'est la rue. Mon micro, c'est la pancarte. Mon costume, c'est le gilet sudrail. Tout ça, ça me manque. L'odeur des pneus qui brûlent. Le son des klaxons quand on bloque une route. Le parfum des merguez au petit matin.
Ah oui, on a tout là, ouais.
Ah, il connaît ça, Cabrol. La fraternité entre collègues quand on balance des cailloux sur les CRS. Un an que je suis privé de ça, la Julie. Mais hier, devant Jean Castex, j'ai compris qu'il allait faire capoter les négociations. Ça, c'est un mec bien, Jean Casquette. Castella, la vedette.
Merci, monsieur Régis. Emmanuel Macron s'est donc penché sur les problèmes de la jeunesse qui paye le prix fort des restrictions, perte de revenus, dépression. On a décidé d'en parler avec un jeune d'aujourd'hui. Bonjour, Kylian Mbappé.
Oui, bonjour, madame Julie.
Alors, c'est dur pour les jeunes de vivre dans un espace clos, d'affronter la perte de revenus. Vous le ressentez, ça, vous ?
Oui, alors écoutez, je rappelle que la taille minimum d'un logement étudiant, c'est de 9 mètres carrés.
Ouais.
Donc je ne ressens pas à mon domicile qui en fait 1850. Si, j'ai un aperçu quand je suis en sanitaire, mais c'est tout.
En sanitaire. Bon, bah d'accord. Autre chose, le football français est dans la tourmente. Hein. Pourtant, vous n'envisagez pas de quitter le PSG, vous.
Non, vous savez, j'ai trop l'amour du maillot, vous savez.
Vous êtes pourtant sollicité par le Real, par Manchester aussi.
Oui, non, mais écoutez, madame, n'insistez pas, j'ai trop l'amour du maillot, je vous dis.
Ah, on parle de baisser tous les salaires de la Ligue 1 de 30%, alors ça.
Bon. Oui, alors certes, j'ai l'amour du maillot, mais si on m'enlève 30% du maillot, ça va plus. C'est pas une épilation non plus. Je ne vais pas jouer en crop top non plus.
Bon, merci. Kylian Mbappé, c'était peut-être pas le bon jeune pour parler des problèmes de la jeunesse. Allez, on finit avec du tennis et l'Open d'Australie. Bonjour Nelson Monfort. Alors, 72 joueurs sont en quarantaine car ils sont des cas contacts.
Oh, oui.
Mais le tournoi aura quand même lieu, hein, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait, ma chère Julie, cher Mathieu. Effectivement, c'est un formidable espoir pour le tennis français. Si ce sont les 72 premiers mondiaux qui sont au tapis, un Français va peut-être enfin gagner l'Open d'Australie.
Les 72 sont privés des 5 heures d'entraînement quotidien. Hein.
Voilà, les 72 meilleurs joueurs français ne peuvent pas s'entraîner des 5 heures d'entraînement quotidien. Tout à fait, il y a donc un coup à jouer. C'est une opportunité formidable. Bon, s'ils avaient été privés de raquettes, ça aurait été encore plus simple, mais n'exagérons pas.
Mais on n'a jamais gagné là-bas.
Jamais.
Hein non, jamais,
je peux vous dire que quand les tennismen français arrivent là-bas, les koalas et les kangourous se méfient. Il y a déjà eu des balles perdues, vous savez, ma chère Julie.
Les joueurs sont donc confinés dans leur chambre avec interdiction de sortir.
Ah bah. Oui, et comme les chambres sont attribuées en fonction du classement mondial, autant vous dire que Nadal et Federer et Joko sont dans des suites qui sont toutes proches de la taille du central de Roland-Garros. Ils peuvent carrément s'entraîner dans leur salle de bain, il faut le savoir. Alors que les tennisman français sont en chambre simple, voire même en cagibi. Bien, je vous laisse, j'ai une interview exclusive avec Richard Gasquet qui m'accueille chez lui dans le local à poubelle de l'hôtel Formule 1 de la sortie 5 du périph' de Melbourne. Ah, les salauds d'Australiens, c'est tout ce qu'ils ont réussi à lui louer. À vous, Julie.
Bravo Nicolas Canteloup, ses auteurs, Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. Philippe Vandel est déjà là avec nous, Culture Média, 9h-11h, la matinée continue avec vous Philippe,
ouais,
bonjour.
Je vais faire très vite parce qu'on a la bourre, bonjour Mathieu, mais justement ça commence très très vite. Sur le front, l'émission d'Hugo Clément change d'horaire, de chaîne, mais pas de format, ou plutôt pas d'ambition. Hugo Clément sera avec nous. Numéro spécial du nouveau détective, je vais arriver à le dire avec ce masque, sur l'affaire Grégory. C'est absolument stupéfiant ce qu'on apprend dans ce magazine. Et puis, il a travaillé avec les plus grands, de Johnny à Mylène Farmer, en passant avec Claude Nougaro. Notre invité, ce sera Yvan Cassard pour une émission très ambitieuse sur France 2 samedi, symphonissime.
Culture Média, de 9h à 11h, je vous souhaite un très bon week-end. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.